Je vous remercie d'être venu pour ce deuxième café scientifique de l'année. Nous avons le plaisir d'avoir une modératrice en la personne de Florence Huguy, qui est journaliste, ancienne notamment de la RTS. Et puis surtout, j'aimerais saluer la venue d'Yves Rébeau, qui est un peu à l'origine du thème de ce café, puisqu'il est à l'origine de l'article qui s'interroge sur la misogynie de la ville, si on peut l'exprimer ainsi de manière très raccourcie. Mais je suis sûr que vous aurez l'occasion de voir toutes les nuances qui se cachent derrière cette thématique au cours de cette soirée. Merci beaucoup et je laisse la parole à Florence.
Merci. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, si le micro fonctionne bien. Ça a l'air d'aller, hein, je n'étais pas très sûre. Ok, donc bonsoir et merci d'être présent, d'être venu participer à cette table ronde, à ce débat autour de cette question un peu polémique. Ville durable, ville misogyne. On va essayer de voir comment on peut conjuguer en fait toutes les questions liées au développement durable et puis les questions qui sont liées à la place des hommes et des femmes dans la société. Donc la question de base qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemblera la ville de demain? Comment la penser? Comment on va la construire? Comment on va la gérer? Et toutes ces questions-là, ben, en général, on y répond en parlant énergie fossile, réchauffement climatique, pollution, insécurité ou sécurité, enfin toutes sortes de questions qui sont assez généralement abordées par rapport aux politiques de développement durable. Mais on parle assez peu d'inégalité entre les femmes et les hommes, alors qu'en fait, beaucoup d'éléments viennent se greffer sur ce débat autour du développement durable et qui touchent à la place des unes et des autres dans la société. Alors, la ville non féminin est-elle, comme Yves Rébeau le dit, comme Yves Rébeau l'affirme dans le titre de son dernier ouvrage, faite par et pour les hommes? Sur quoi se base-t-on pour dire que l'espace public serait plutôt masculin et que l'espace privé serait féminin? Quelles conséquences cela aurait-il sur la place des hommes et des femmes dans la société? C'est quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Et une fois ce constat posé, comment peut-on répondre aux faits qui semblent donner raison à cette vision-là? Y a-t-il des initiatives, des pistes de solutions, des actions concrètes qui seraient mises en œuvre, qui seraient mises en place pour permettre de garantir à la fois une ville durable et une ville égalitaire pour demain? C'est aussi là, un aspect qu'on va pouvoir aborder dans le cadre de ce débat. Alors, pour entamer la discussion, je vais vous présenter nos différents interlocuteurs, qui sont trois, que je remercie de leur présence. Donc, effectivement, d'abord, je commence par vous, Yves Rébeau. Donc, vous êtes géographe au CNRS, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Vous êtes venu exprès à Neuchâtel pour participer à cette table ronde. Vous êtes donc l'auteur de toutes ces études qui ont inspiré la thématique de ce café scientifique, comme vient de le dire M. Chlebny. Et vous êtes aussi membre du laboratoire ADES. ADES, ça veut dire Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Société, toujours à Bordeaux. Et vous êtes chargé de mission égalité femmes-hommes pour l'Université de Bordeaux. Et puis récemment, depuis le mois de janvier, vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'égalité pour les femmes et les hommes au niveau national, donc pour la France. À côté de vous, je salue Nicole Bord, qui est la chef de l'Office de la politique familiale et de l'égalité du canton de Neuchâtel, qui va pouvoir nous donner quelques éclairages un peu plus locaux peut-être, et puis des réactions aussi à certaines thèses que défend Yves Rébeau. Et enfin, j'accueille Ola Söderström, qui lui est professeur en géographie sociale et culturelle, spécialiste de l'étude des villes à l'Université de Neuchâtel. Alors peut-être pour lancer la discussion et lancer le débat, je vais donner la parole à Yves Rébeau pour qu'il nous parle un peu de sa vision et puis des différentes thèses qu'il défend justement pour qu'on puisse voir si est-ce qu'on peut vraiment dire, comment est-ce qu'on peut dire que la ville serait faite par et pour les hommes.
Bien, merci de votre invitation. Merci aussi pour l'exemplaire parité de l'Assemblée, puisque j'ai compté 19 femmes et 16 hommes et que nous sommes à égalité à la tribune. Donc du coup, c'est un débat qu'on va pouvoir partager largement. Alors sur le titre « Ville durable, ville misogyne », ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre, mais il est très intéressant, puisque j'ai tendance plutôt, on parle plutôt avec mes collègues, donc quand je dis « je parle aussi des collègues que je citerai au fur et à mesure de mon exposé avec qui je travaille, de villes sexistes, plutôt du sexisme comme minoration des femmes dans la ville. La misogynie, ce serait plutôt le côté haine viscérale des femmes, etc. Non, mais qui existe aussi, mais c'est intéressant, donc ça me donne à réfléchir sur misogynie et sexisme. sexisme, avec la misogynie qui a une histoire aussi, donc, alors que le sexisme est un concept qui est plus sociologique, plus récent. Et sur la ville durable, donc, effectivement, vous avez bien évoqué, je ne vais pas faire un topo sur la ville durable, on voit en ce moment, avec les grandes pressions sur le réchauffement climatique, s'accélérer un mouvement de conscientisation des urbains, hein, mais pas que d'eux, et des responsables politiques sur la question de l'environnement, la question de la nature, la question du réchauffement climatique, des microparticules qui finalement condamnent une ville du XXe siècle, une ville très urbanisée et faite pour la voiture, avec ce qu'on évite peut-être dans des villes plus petites, mais cette architecture sur dalle avec des parkings souterrains où le but c'est de pouvoir se garer le plus près possible de son travail, des immenses supermarchés, une circulation urbaine, et donc le tout voiture, hein, qui a remplacé finalement une autre ville qui était avant, qui était aussi durable, parce que les villes durent depuis très longtemps, hein, comme vous le savez. Donc la ville durable, bah, c'est les villes dans lesquelles on vit et qui ont quelquefois 1000 ans. Hein, donc peut-être on peut se demander comment elles ont duré et comment certaines villes n'ont pas duré. Hein. Et donc cette question, eh bien, apporte, avant même qu'elle soit posée, finalement apporte une pléthore de réponses. C'est-à-dire, on dit la ville durable, c'est une ville où, écologiste, où il y a des espaces verts, de la nature, où on limite le trafic urbain, où on remplace les mobilités par le vélo, la marche à pied, des transports en commun. C'est une ville où on isole les maisons, hein, donc là, il y a des tas de solutions techniques, où on crée des éco-quartiers, hein, très, très blindés, dans lesquels on peut chauffer finalement sa maison avec une boîte d'allumettes, même en hiver. Donc il y a toutes ces questions-là. Et puis surtout, on voit arriver dans la ville durable la solution magique de la technologie avec l'informatique. C'est ce qu'on appelle la smart city, la ville intelligente. Hein. Bon, on imagine qu'il y avait une ville bête avant et qu'il y a une ville intelligente maintenant. Et que grâce finalement à tous ces gadgets, ces applis, on va pouvoir trouver immédiatement le lieu de rencontre, le vélo, le transport exactement. Et que c'est un peu la solution à nous. Alors ces réflexions sur la ville durable suppposent pour nous qui sommes à l'université d'avoir un minimum d'esprit critique. Parce qu'on ne peut pas rentrer non plus sans réfléchir, hein, dans des choses qui sont aussi quelque part des slogans. Hein, et ça suppose aussi qu'on ait une approche critique. Alors, une des approches critiques, hein, actuelles, hein, bien, c'est la question du genre, hein, et je vous dirai pourquoi ça me paraît une approche critique importante, mais on pourrait l'aborder aussi avec les études, ce qu'on appelle les race studies, les études de race, hein, ou les études postcoloniales, c'est-à-dire en se posant la question, puisque là, les grands dangers qui nous tombent sur la tête, c'est le réchauffement climatique et puis les migrations, par exemple, hein, donc le terrorisme, par exemple. Donc, comment tout ça se combine pour faire un discours homogène, descendant, qui nous contraint à des bonnes pratiques avec un certain nombre de difficultés. Donc, c'est un petit peu ces questions-là que nous avons le devoir aussi de poser. Alors, pour en parler, eh bien, effectivement, vous m'avez présenté. Donc, je suis géographe. J'ai travaillé sur une approche de géographie sociale et culturelle, et notamment une approche de géographie culturelle. Et c'est comme ça que je suis un peu rentré dans la ville, en travaillant notamment sur un sujet d'étude qui avait eu la possibilité de financement. J'ai travaillé sur les équipements destinés aux loisirs des jeunes dans la ville. Donc on a travaillé de façon systématique, d'abord sur les centres de loisirs, les maisons de jeunes, les maisons de quartier, les terrains de sport, le loisir, la culture, les lieux de répétition des écoles de musique, hein, tout un travail de compilation. Et à partir de ce premier travail, donc, qui m'était familier, je me suis assez vite rendu compte d'une façon intuitive, d'abord, que les loisirs des garçons étaient beaucoup plus financés que les loisirs des filles, hein, aussi bien en surface mise à disposition qu'en moyens généraux, et qu'en plus, assez rapidement, j'ai vu que aussi toutes les cultures émergentes, les cultures créatives, le renouvellement des cultures, hein, eh bien, finalement, étaient toujours des cultures masculines, et qu'effectivement, les cultures passé, etc. Vous savez, c'est un peu comme on dit, enfin, je ne sais pas si ça se dit chez vous, on dit la culture vivante, hein, l'art vivant en France. Hein, et donc, l'art vivant, eh bien, c'est cette créativité. Il y aurait, un peu comme pour la ville intelligente, est-ce qu'il y aurait un art mort ou une culture morte, hein, voilà, le spectacle vivant, est-ce qu'il y aurait un spectacle mort? Et donc, là aussi, ça correspondait toujours aussi à des articulations qui étaient très genrées. Alors, assez rapidement, eh bien, on a commencé à faire ce travail qui pose une question de justice sociale. Est-ce qu'on donne autant d'argent aux filles et aux garçons? Donc, tant qu'on dit c'est de l'argent pour les jeunes ou c'est de l'argent pour les sportifs, ben, on dit voilà, c'est pour tout le monde. Hein. Mais si on dit c'est de l'argent pour les garçons ou les filles, les femmes ou les hommes, hein, donc là, il y a une autre question qui se pose. Donc, très vite, on pose la question de savoir est-ce que quand on construit un stade, on le construit pour des sportifs? certainement, en tout cas pour les amateurs de spectacles sportifs, mais aussi si on dit qu'il y a 39 000 hommes et 1000 femmes dans ce stade et que ça se reproduit dans toutes les villes d'Europe et du monde, on peut dire que c'est un équipement pour les hommes. Et là, immédiatement, on voit une montée de réfutation en disant « mais non, non, c'est pas pour les hommes, c'est pour les sportifs, etc. » Sous-entendu, les femmes ont d'autres activités. Donc c'est pareil aussi si on voit les scènes de musique émergente, musique actuelle, on constate qu'il n'y a que des hommes dans les lieux de répétition, voilà, pareil. Et donc à partir de là, on a fait un premier programme de recherche qui a eu pour objet de compter de façon systématique sur 3 communes de la périphérie bordelaise d'abord, puis ensuite sur la ville de Toulouse et un quartier de la ville de Toulouse plus précisément ensuite, puis ensuite c'était fait sur Angers, donc et qui nous ont donné des chiffres et qui ont correspondu également avec d'autres chercheurs disséminés en Europe qui ont travaillé sur cela. Et donc là, on a vu assez rapidement que quelques éléments ont émergé, donc en France, je pense, parce qu'en Suisse, le travail n'a pas été fait, donc c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, probablement moins. Mais en France, on est arrivé sur ce chiffre à peu près commun dans toutes nos études, qu'environ 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons. Donc ça, c'est un élément important. Donc on voit dans les pratiques sportives, culturelles, etc., à peu près 66-67% de garçons, un peu plus de 2/3, et 33% de filles. Et si on le rapporte au budget, les loisirs non mixtes masculins étant financés plus que les loisirs non mixtes féminins, on arrive à ce budget. Donc qui est en soi déjà un budget qui doit être le démarrage d'une réflexion et sur le sujet. Alors après, quand on descend en détail, là aussi, je précise que tous ces budgets sont confondus. C'est-à-dire qu'on prend aussi bien le club de boxe, la salle de danse, le twirling bâton, la médiathèque, la piscine, tous ces loisirs-là. Donc même dans des endroits où on pourrait penser, on dit oui, certes, les garçons sont plus nombreux sur les terrains de sport, mais les filles seraient plus nombreuses dans des salles de danse ou à l'école de musique. Dans les salles de danse, certainement, à l'école de musique, non, c'est à peu près équivalent. Eh bien, si on cumule tout, on retrouve quand même cette articulation très, très stupéfiante. Alors, très intéressant aussi de montrer que chaque fois qu'il y a des loisirs... Non, il faut que je passe d'abord la deuxième remarque majeure de ce travail, qui a été l'objet d'une thèse d'Edith Marveux-Jules à Bordeaux, c'est aussi de montrer le décrochage des filles. Donc ça, c'est aussi un phénomène intéressant. C'est-à-dire jusqu'à la sixième, ce qui correspond à l'âge de 11-12 ans chez nous, l'entrée au collège, eh bien, on a à peu près équivalent filles et garçons dans les centres de loisirs et les activités de loisirs. Et à partir de la sixième, garçons et filles décrochent, puisqu'on va vers des activités volontaires, mais les filles décrochent beaucoup plus que les garçons et elles disparaissent peu à peu des loisirs publics. Et dans le même temps, se met en place une offre spécifique destinée aux jeunes et dont le but, la croyance depuis 100 ans, 150 ans, c'est qu'il faut canaliser la violence des jeunes dans des activités positives, en leur donnant des espaces de sport, d'expression, de musique, dans lesquels ils pourraient effectivement s'organiser entre eux, devenir citoyens dans la ville, tout en ayant un espace d'expression. Or, ces lieux spécifiques sont exclusivement des espaces masculins. C'est-à-dire qu'il y a peu de politiques de jeunesse destinées à des jeunes des quartiers, par exemple, qui ne soient extrêmement majoritairement, voire exclusivement consacrés aux garçons. Donc là, on en parlait tout à l'heure en aparté sur les villes suisses, mais il semble que ce soit la même chose. Alors, cette disparition des filles, eh bien, effectivement, on se pose la question de savoir est-ce que c'est une disparition, une autocensure, une disparition volontaire des filles qui correspondrait à des modes de vie. Finalement, les filles n'ont peut-être pas envie de se battre autour d'un ballon, elles ont peut-être autre chose à faire, elles ont peut-être d'autres activités. Et donc là, on voit que les adultes ont énormément de réponses à donner sur cette disparition des filles. Donc ils disent, par exemple, elles travaillent mieux en classe, donc du coup, elles s'épanouissent à l'école. Et comme elles s'épanouissent à l'école, la preuve, c'est qu'elles vont en plus à l'accompagnement au devoir après la classe, qui est leur loisir préféré. Eh bien, du coup, elles ont moins envie d'aller sur les terrains de sport dans la ville. On dit aussi, alors là, c'est aussi le ressort, finalement, où on ressasse de vieilles études psychologiques. On dit à partir de la sixième, c'est la puberté, l'adolescence. Et donc, les filles ont un développement plus intérieur, plus etc., voilà, qui les amène à rester chez elles, à être plutôt chez Facebook, tout ça. Voilà. Et puis, les garçons, par contre, ils ont cette virilité jaillissante, correspondant à la puberté, qui font qu'ils s'expriment vers l'extérieur, etc. Donc là, on a ces interprétations naturalisantes. Voilà. Donc, je vous dirai ce qu'on en pense après. Troisième question, toute bonne foi, les gens disent, mais les garçons, ils ont des terrains, des skateparks, des city-stades, ils ont des terrains de sport, etc. Mais les filles, elles ont aussi des salles de danse et leurs activités préférées. Et donc là, effectivement, c'est la question. Alors, quand on va voir du côté des filles,
Bon, après, si on insiste, ça énerve. On dit oui, c'est féministe, etc. Donc, voilà. Bon. Alors, si on va du côté des filles, eh bien, il n'y a pas du tout le moindre point de vue quand on interroge les filles. Elles disent ben, moi, j'allais avant au basket, hein, et puis ma mère m'a dit maintenant, t'es grande, tu ne traverses plus le quartier tout seul le soir pour y aller. Voilà. Elle dit avant, j'allais au centre de loisirs, et puis maintenant, à la maison de jeunes, ben, quand j'y vais, il n'y a que des garçons, ils se moquent de moi, etc. Donc, je ne veux plus y aller. Avant, j'allais aux vacances. Pendant les petites vacances, hein, au séjour. Et puis là, bah, en fait, la seule chose qui était proposée, c'était un stage de VTT. Si j'y vais, je vais être la seule fille, les garçons vont se tirer la bourre et je ne pourrai pas suivre. Donc on voit que, très clairement, il y a des obstacles matériels, hein, qui ne sont pas de l'autocensure. Hein, voilà. Et qui fait que les filles ne se retrouvent plus dans des espaces mixtes. Alors, effectivement, ce qui se passe aussi, c'est qu'à l'adolescence, avec le consentement général des adultes qui, depuis l'enfance des enfants, sont préoccupés par une question majeure, est-ce que mon fils va être un vrai garçon et pas un homosexuel, et est-ce que ma fille va être une vraie fille féminine, etc., eh bien, cette question majeure qui oriente le choix des loisirs des enfants, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à son petit garçon de la danse, parce qu'on a peur, on ne sait jamais. Hein. Et puis, si la fille traîne trop dans le quartier avec un ballon au pied, on va lui dire, on va l'inscrire aussi à la danse pour la rendre un peu féminine, au cas où. Hein, ça veut pas... Donc, il y a cette préoccupation majeure, cette angoisse, finalement, de la normalité d'orientation sexuelle, qui fait que les loisirs, les activités font partie, effectivement, du bagage des bons parents, hein, pour construire un garçon ou une fille normale selon les stéréotypes. Sauf que, effectivement, eh bien, ça se retrouve marqué de plein fouet à cette fameuse adolescence, hein, où les filles étant en danger dans l'espace public, les parents considèrent et la société considère qu'elles sont vulnérables, hein, effectivement, dans ces espaces, eh bien, ce repli, finalement, se sépare. Et donc, les loisirs mixtes deviennent des loisirs non mixtes. Très difficile d'avoir... et pas d'organisation, d'ailleurs. Il n'y a pas d'organisation pour qu'il y ait des loisirs mixtes entre adolescents. Très, très peu. Hein. Avec la baisse de puissance du scoutisme, de l'éducation populaire, d'écolo mixte, eh bien, maintenant, on est vraiment dans une orientation, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Donc, les filles, si elles veulent avoir une activité, se retrouvent sur des activités stéréotypes de genre, hein, c'est-à-dire danse, twirling bâton, gymnastique rythmique et sportive, natation synchronisée, équitation. Hein. Donc elles ont identifié comme des lieux d'entre-soi où elles seront assez bien pour faire ces loisirs. Et elles ont également la double peine, puisque chaque fois qu'elles ont des activités non mixtes, eh bien, d'une certaine manière, elles se retrouvent extrêmement peu subventionnées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une activité féminine, eh bien, ça devient très, très compliqué pour changer le parquet de la salle de danse. Là, il y a 2 ans, en France, suite à aussi une législation européenne, l'équitation a été taxée à 20%, la TVA sur l'équitation, hein, qui est un sport de filles, 700 000 filles pour 100 000 garçons. Alors que parallèlement, on a exonéré de TVA la Coupe d'Europe de football qui va se dérouler en France cette année. Donc on voit bien aussi, c'est un petit signe, qu'on ne trouve pas de salle. Et d'ailleurs, on le voit dans les études qui sont faites sur le sport, les pratiques sportives féminines sont pratiquement toujours des pratiques payantes, enfin, en grande majorité des pratiques payantes en salle, hein, alors que les pratiques masculines, il y a énormément de moyens pour des pratiques gratuites pour les hommes. Donc on voit cette dévalorisation. Et puis aussi cette dévaluation qui se traduit aussi dans une différenciation, c'est-à-dire une valorisation des activités. La danse, le twirling bâton, la gymnastique rythmique et sportive, ces ringards un peu démodés, les tutus, les chaussons. Le hip-hop tourné sur la tête ou bien le rap, tout ça, c'est une valeur sociale, hein, c'est l'expression sociale. Donc on voit bien que même dans l'entretien qu'on a avec les élus, hein, et où je posais la question d'une élue pour savoir pourquoi il n'y avait pas de subvention à la danse dans sa commune, elle disait, mais écoutez, moi, je suis féministe et ce n'est pas cette image-là de la femme qu'on veut promouvoir, donc on va plutôt aider l'équipe de handball féminine, voyez, c'est-à-dire aider les filles à aller sur le terrain des hommes. Ou bien quand on travaillait avec le conseil départemental de la Gironde sur les subventions attribuées aux associations, il y avait un conflit sur les subventions au twirling bâton. Vous connaissez en Suisse le twirling bâton, les ex-majorettes. Et donc là, le conseil général, notamment les élus femmes du conseil général, du conseil départemental, ne voulaient pas financer les activités de twirling bâton en disant que c'était ridicule, ringard, démodé, que c'était une image mauvaise des jeunes filles, alors qu'il y avait plusieurs milliers de jeunes filles qui adorent cette activité en Gironde, hein, surtout en milieu rural, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'activités pour les filles, et donc on ne la subventionnait pas. Donc là, on voit bien, effectivement, cette différence importante. Dernier élément, puis on fera une petite pause. Vous voulez qu'on fasse une petite pause, c'est ça, hein? Parce que quand je déroule, après, voilà.
Justement, donc je vais prendre un autre micro.
Dernier élément sur cette enquête sur les loisirs des jeunes, eh bien, l'ensemble des moyens qui sont donnés sont quand même plus ou moins donnés à des lieux qu'on pourrait identifier à des maisons des hommes. Hein, c'est un terme sociologique qui est employé par un certain nombre de personnes. Puisque, effectivement, sur le skatepark, sur le terrain de foot, sur la scène du rock ou dans le rap, etc., eh bien, la figure dominante, c'est celle du caïd. Donc, c'est des lieux où les groupes de garçons se retrouvent sur des modèles de virilité, hein, et dans lequel, effectivement, celui qui est d'ailleurs facilement rejeté, puisque pour que la solidarité se crée dans le groupe de garçons, sur ces terrains, etc., eh bien, il faut aussi de temps en temps qu'il y ait un bouc émissaire qui sera effectivement le PD ou la gonzesse, c'est-à-dire celui qui n'est pas finalement à la hauteur de l'épreuve qui est faite. Et donc là, les moyens publics sont massivement donnés à des activités qui s'alignent sur ce modèle de la virilité et de la masculinité dominante.
Alors, j'avais promis de donner la parole d'abord à Nicole Bohr, mais je vais la donner d'abord à Ola Söderström, si c'est possible. Bon. Merci. Pour réagir par rapport à ce que nous dit Yves Rébeau. Donc, on parle notamment de la question des sports et puis de l'attribution des budgets entre les garçons et les filles. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de la ville, géographe également, vous trouvez que c'est représentatif de cette question de répartition des genres
Du genre. Un genre et on est positionné différemment sur le genre, absolument. Il n'y a pas des genres.
Du genre, mais est-ce que c'est vraiment représentatif ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres problèmes dans la ville ou d'autres situations qui ne pourraient pas répondre à ce genre de critères ?
D'abord, il faut que je dise que je ne suis ni un spécialiste de la ville durable, ni un spécialiste des questions de genre, donc je pourrais sortir tout de suite de la salle. Mais je trouvais la thématique intéressante parce qu'elle enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je vais peut-être vous décevoir parce que je ne vais pas répondre directement à la question.
Vous savez que les questions sont faites pour lancer les intervenants.
Oui, j'ai l'habitude de ne pas répondre aux questions et de faire ça ou bien de faire semblant d'y répondre. Donc je vais plutôt être en contrepoint de ce que vont dire mes deux collègues, camarades à la table. Peut-être, bon, j'ai une chose à dire peut-être d'abord sur la question du genre. J'ai commencé à donner dans un cours de bachelor que je ne donne plus puisque je me décharge de quelques heures, j'ai d'autres obligations, un cours sur la géographie du genre. Et j'ai commencé à faire ça il y a une douzaine d'années, et c'était très intéressant de voir dans un cours d'introduction à la géographie sociale et culturelle, et c'est là que j'ai un peu ma littérature et mon travail là-dessus, mais qui n'est pas un travail de recherche, c'est pour ça que je ne suis pas un spécialiste, de voir que sur ces questions-là, il y avait un aha effect, comme disent les anglophones, hein, c'est-à-dire que je pouvais leur parler des heures du paysage, susciter un certain intérêt, je pense, mais il y avait quelque chose de spécifique autour de ça, parce que on touchait à des questions qui n'étaient pas du tout à la conscience des étudiants. Et je pense que c'est toujours la même chose pour les personnes qui donnent ce cours à ma place depuis 3 ans maintenant. Il y a toujours cet effet-là. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne vais pas vous refaire le cours ici, mais en gros, j'explique comment finalement la discipline de la géographie est genrée, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée par des hommes et avec une vision de la connaissance qui n'est pas neutre du point de vue du genre. Avec un privilège comme ça d'activité virile, hein, la géographie, c'est la conquête aussi du territoire, l'exploration, le travail de terrain, tout ça est très spécifique à la géographie, à une dimension genrée. Le privilège aussi du voir, le visuel est extrêmement important en géographie, la production de cartes, enfin, il y a toute une série de travaux qui montrent à quel point la discipline a été forgée par cette question du genre. L'autre aspect, c'est, et on en a parlé un peu avec ce que Yves Rébeau vient de dire, c'est comment la ville et les espaces en général sont normés du point de vue du genre. C'est-à-dire comment il y a des attentes de rôle, il y a des attributions de certains espaces plutôt au masculin ou au féminin, l'espace public aux hommes et l'espace privé aux femmes, et comment cette division-là a été historiquement et culturellement produite, notamment de par le développement et l'étalement urbain et ce confinement des femmes qui s'est fait avec la construction de la banlieue. Robert Fishman a travaillé là-dessus à partir de la fin du 19e siècle. Et ces choses qui sont très concrètes, finalement, c'était très intéressant de voir à quel point elles créent cet effet de surprise et d'étonnement auprès des étudiants. Et la chose qui était la plus amusante, je venais au deuxième ou troisième cours que je donnais là-dessus, je crois chaque année, avec une petite balle. Je posais la balle sur le pupitre au début du cours, et les étudiants se demandaient pendant, je pense, 45 minutes, que faisait cette balle-là. Et je demandais à un garçon et à une fille, sans expliquer vraiment pourquoi, de lancer la balle. Et on commentait ensuite avec les étudiants le lancer de la balle. Je faisais référence à un texte que vous connaissez sans doute de Iris Marion Young, qui s'appelle « Throwing like a girl ». Et un des arguments dans ce texte, c'est de dire, finalement, si vous regardez le lancer de la balle, hein, le lancer stéréotypé féminin d'une balle, c'est comme ça. Et le lancer d'une balle par un garçon, il va utiliser tout son corps comme levier pour le lancer. Ce qui n'est pas évidemment une programmation génétique du lancer de la balle par les garçons et par les filles, mais qui est liée à une socialisation du rapport des hommes et des femmes à l'espace. C'est-à-dire le fait qu'il y a... Alors, il ne faut pas essentialiser, il n'y a pas l'homme et la femme, disons, mais globalement, il y a une façon d'occuper un espace, nous occupons un espace, vous ici, moi ici, d'une certaine manière, d'une façon plus confiante et affirmée, que souvent les femmes apprennent à le faire. Donc c'était assez intéressant de travailler cette question, et c'est une question qui est venue un peu tardivement à la géographie et aux études urbaines francophones. Ce sont des questions qui sont travaillées depuis 25-30 ans du côté de la littérature francophone. Alors je ne vais pas faire un long tunnel, je m'arrête là parce que je peux continuer longtemps.
Oui, d'accord. Très bien.
J'arrête.
Vous voulez encore ajouter quelque chose ?
J'ai plein de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter
là. On s'arrête là, et puis voilà. Ouais, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, cette étude scientifique qui a été faite sur le lancer de la balle a été reprise, mais ça vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu, par une publicité pour des bandes hygiéniques, pour ne pas les nommer. La question n'était pas de lancer une balle, mais de faire courir les filles, courir comme une fille. Et on voit que les petits sont moins stéréotypés que les plus grands, qui ont intégré ce qu'on attend des garçons et des filles, et qui courent donc comme une fille de manière totalement ridicule quand on leur demande de faire l'exercice. Alors, Nicole Bohr, vous faites réagir peut-être à tout ce qui a déjà été dit.
D'abord, bonjour. Et puis, je vais dire que quand j'ai entendu Yves Rébaud pour la première fois, d'abord, j'ai été très intriguée, et puis en même temps très peinée. Très intriguée parce que je n'avais jamais imaginé vraiment la ville en tant qu'espace comme ça urbain, de mes connaissances d'aménagement du territoire, comme quelque chose de genré. Donc ça m'a vraiment intriguée. Évidemment, je l'ai écoutée avec attention. Et puis ensuite, j'étais très peinée parce qu'il y a deux valeurs pour lesquelles je me suis battue, notamment en politique, qui sont le développement durable et évidemment l'égalité entre hommes et femmes. Et puis, c'est vrai qu'il mettait les deux en opposition. Et puis, il avait l'air de dire que la ville durable, c'était une ville misogyne, et puis que les femmes n'avaient pas leur place, et etc., etc. Donc j'étais vraiment très peinée parce que mes deux grandes valeurs étaient en opposition. Mais après, j'ai écouté la suite. Évidemment, c'était très intéressant et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Quand il a parlé de gender budgeting, évidemment, c'est quelque chose qui est le genre... Il n'y a pas de traduction vraiment en français, on ne l'utilise pas, mais c'est vraiment le budget à travers la vision du genre, Et puis c'est vrai que ça m'a rappelé quand même pas mal de débats que nous avons eus, notamment ici en ville de Neuchâtel au Parlement, où régulièrement on rénove des stades de foot, on en a beaucoup, on les rénove, ça coûte très cher, on fait des douches, et enfin un tas de trucs assez coûteux. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, j'essayais, quand je devais donner la position du groupe, j'essayais de mon groupe, qui était d'ailleurs assez sensible à ces questions, heureusement, j'essayais de dire, mais écoutez, c'est quand même pour les garçons. C'est quand même, on va mettre tant de millions ou tant de centaines de milliers de francs pour des garçons, à majorité, 90% plus de 90% des joueurs de foot sont des garçons, pas des joueuses. Donc je disais, mais alors à chaque fois, je peux vous dire l'effet, alors le ha-ha, comme vous savez, dit effect, dans l'Assemblée, était vraiment, alors d'abord à droite, c'était, mais qu'est-ce que c'est encore que cette idéologie et qu'est-ce que vient faire cette féministe avec ses arguments? Et puis à gauche, on aime bien le foot parce que c'est très intégrateur, donc on aime bien le fait que les garçons, justement, pour canaliser, c'est très intéressant d'ailleurs toutes ces notions, pour canaliser leur énergie, eh bien, on aime bien les envoyer au foot, pour les intégrer, notamment les populations migrantes, on aime bien que les garçons fassent du foot. Donc, voilà, on trouvait vraiment qu'est-ce que je venais avec, ennuyer tout le monde avec ces histoires. Et je vous donne un exemple très concret qui récemment a été justement soumis au Parlement. On devait rénover la pelouse de la Maladière. Et la pelouse de la Maladière, simplement, coûtait 500 000 pour rénover, juste qu'on ait une bonne pelouse pour courir dessus. Et je ne connais pas les prix, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Néanmoins, de l'autre côté, on a un chalet à Haute-Nanda. La ville est propriétaire d'un chalet à Haute-Nanda pour des camps de ski, pour des camps de musique, pour des camps verts. Et puis, pour rénover ce chalet, justement, il fallait aussi investir 500 000 francs. Et qu'est-ce qu'on avait prévu ? Eh bien, on avait prévu de vendre le chalet. Et puis, la pelouse, personne n'a remis en question, on n'avait pas, évidemment pas la vendre, mais personne n'a remis en question le fait qu'on allait rénover la pelouse de la Maladière. Et je les ai mis, quand j'ai fait ma petite intervention, je les ai mis quand même en regard, et j'ai dit, mais enfin, comment se fait-il qu'on vende ce chalet comme ça, parce qu'on ne peut pas le rénover ? Ça, évidemment, ça impliquait d'autres coûts aussi d'entretien, hein, ça ne s'arrêtait pas là. Mais quand même, oula, les camps de ski, c'est pour les filles et les garçons, les camps verts, c'est pour les filles et les garçons, les camps musique, c'est aussi filles et garçons, et je trouvais quand même que c'était un peu choquant que d'un côté, on se débarrasse de biens en plus de patrimoine, et puis que de l'autre côté, on n'ait aucun souci à refaire cette pelouse de la Maladière. Mais c'est vraiment un sujet, c'est pour dire que c'est un sujet qui n'est absolument pas dans les têtes des gens, c'est vrai. Et quand on dit 75% du budget qui est attribué aux garçons, je le crois volontiers, mais c'est quelque chose, essayez autour de vous, dans une soirée, vous pouvez essayer de discuter de ce sujet, vous allez voir les effets que ça va faire. C'est vrai que c'est quelque chose dont les gens n'ont pas conscience du tout. Et pas plus tard que tout à l'heure, on avait une séance dans mon poste de délégué à l'égalité et à la politique familiale, nous avions une séance avec des communautés migrantes, et on a parlé du projet qui s'appelle Midnight, que peut-être certains d'entre vous connaissent, où on ouvre les salles de sport le samedi soir pour les jeunes. C'est un très beau projet, magnifique, qui coûte d'ailleurs pas très cher et qui a beaucoup de succès visiblement, donc je ne suis pas là pour le critiquer du tout. Mais néanmoins, j'ai demandé comment est la fréquentation de ces salles de gym. Est-ce que c'est des filles, des garçons ? Alors on m'a dit qu'il y avait une majorité de garçons, on m'a tout de suite dit qu'il y avait une majorité de garçons. On m'a dit 60-40, je ne sais pas exactement si c'est vraiment la vraie proportion, mais peu importe, une majorité de garçons, parce que de nouveau l'idée à la base, c'est quoi ? C'est de canaliser ces garçons qui sont dans l'adolescence, la préadolescence, et qu'il ne faudrait pas trop les voir traîner en ville, donc on les amène à faire du sport, ce qui est encore une fois très bien. Et puis après, j'ai dit, mais pourquoi les filles ne viennent pas ? Et on m'a dit, bah, en fait, les filles, elles aiment mieux un peu rester entre elles, discuter entre elles. Alors, on leur aménage des petits coins pour qu'elles puissent se retrouver puis discuter. Mais elles ont moins envie de faire du sport. Mais le sport qui est proposé, eh bien, c'est encore une fois du foot, évidemment, et puis du basket, et puis des sports peut-être qui ne sont pas non plus forcément l'apanage des filles. Mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, et on pourra discuter longuement pourquoi les filles abandonnent le sport un peu à l'adolescence, c'est une vraie question, c'est quelque chose qui nous occupe aussi. Pourquoi est-ce qu'elles ont plutôt tendance à vouloir être peut-être dans un espace clos, et puis en petit groupe, tout ça sont des questions qui nous habitent et qui ont trait à l'éducation, mais c'est quand même intéressant d'une fois souligner, notamment les moyens qui sont alloués aux garçons.
Donc le chalet est vendu ?
Il n'est pas vendu. Je me suis bien battue et nous ne l'avons pas vendu.
Alors, c'est vrai que quand on parle, je reviens avec ma question, Monsieur Söderström, quand on parle d'équipement sportif, on est dans une des thématiques qui touche à toutes ces questions de genre. Il y en a une autre qui est peut-être un peu plus populaire ou qui fait un peu plus parler d'elle actuellement, c'est toute la question du harcèlement de rue. Et peut-être que là, vous pourriez nous en dire quelques mots. Je vous propose peut-être de prendre ce micro-là.
Voilà, c'était. Je vous ai présenté la première recherche. La deuxième démarrée en 2009 avec l'agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, donc qui gère les grands projets, les études sur les grands projets métropolitains. Eh bien, s'appelait l'usage de la ville par le genre. Alors, je rejoins ce que disait mon collègue. Le genre, c'est la relation femme-homme, l'interaction entre les femmes et les hommes. Donc, on ne dit pas les genres, mais le genre. Voilà. Les sexes et le genre, par exemple. On peut dire comme ça. Et donc, là, l'usage de la ville par le genre, eh bien, on est parti avec ma collègue ethno-urbaniste Marie-Christine Bernard-Homme d'une enquête mobilité-ménage qui avait été réalisée justement en 2009 avec l'aide de l'INSEE. Donc, une enquête 9000 questionnaires posés dans des foyers de la métropole bordelaise, des foyers qui étaient des familles monoparentales, parental avec deux enfants, homoparental, des personnes vivant seules, des couples sans enfants, toutes sortes de ménages. Et lors de cette étude sur les mobilités, on demandait aux personnes, y compris aux enfants, c'était une étude très intéressante, quels moyens de transport vous utilisez pour aller à l'école, pour aller faire vos courses, comment vous déplacez-vous dans la ville, au travail, etc. Et là, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des données statistiques qui n'avaient pas été travaillées sur les revenus des ménages, les revenus des uns et des autres. Donc, on retrouvait quand même un certain nombre de constantes, c'est-à-dire des revenus des femmes 25% inférieurs aux revenus des hommes, mais aussi dans les mobilités, eh bien, le fait que, encore un chiffre très intéressant, 70% des accompagnements d'enfants et de personnes âgées étaient faits par les femmes. C'est-à-dire que les femmes utilisaient leur voiture le plus souvent pour accompagner les enfants,
trois fois plus souvent à peu près que les hommes. Mais, et après, sur l'utilisation de la voiture, elles utilisaient plutôt moins la voiture que les hommes, c'est-à-dire plutôt les transports en commun, hein, donc les hommes utilisant leur voiture davantage pour le travail et les loisirs. Hein. Et donc là, on voyait bien cette fonction d'accompagnement qui faisait que les femmes utilisaient la voiture dans la ville, avec après d'autres choses qui se sont révélées par la suite. Donc cette deuxième partie de l'enquête, c'était des groupes, donc ce qu'on appelle, c'est la technique des groupes focus. On réunit des groupes de 5 ou 7 femmes, donc qui sont pour des longs entretiens, hein, en collectif. Donc c'est pas des entretiens face à face, mais c'est des entretiens entre elles. Donc les femmes qui avaient été recrutées par l'ethno-urbaniste, eh bien étaient des femmes de quartiers différents, d'âges différents, de revenus sociaux différents. Elles étaient rémunérées pour cette enquête, hein, un peu rémunérées. Donc là, il y avait ce côté-là. Et donc on a sorti sur ces longs entretiens avec 8 groupes de femmes, eh bien des constantes dans les circulations dans la ville. Première constante qui était majeure, toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur classe sociale ou leur âge, eh bien, ont peur dans la ville la nuit. Donc ça, c'était vraiment une constante tout à fait intéressante et donc qui entraînait des mobilités assez spécifique à ce qu'on pourrait appeler la condition féminine. Alors les seniors, les plus âgés, eh bien sortent, quand elles sortent, elles préfèrent utiliser leur voiture, si elles sont plus riches, un taxi, hein, pour aller en ville, ou bien elles sortent, si elles sortent, elles se font accompagner d'un homme, de leur mari ou d'une compagne, mais elles ne circulent pas seules dans la ville, elles ont peur dans la ville de la nuit. Les femmes qui sont dans des familles monoparentales ne sortent très peu le soir, hein, et voilà. Et puis on a aussi les catégories des plus jeunes qui sortent, mais qui ont des stratégies pour sortir. Ce qu'on a trouvé aussi dans un travail de recherche mené sur les étudiantes de mon université, avec des stratégies qu'on retrouve effectivement dans la littérature américaine, qui avait travaillé sur le street harassment depuis très longtemps, et aussi sur d'autres enquêtes, à savoir cette question de l'invisibilité dans la ville. Pour sortir, une étudiante qui va sortir le soir, eh bien, pense à la manière dont elle s'habille, donc un habillement où on cache les cheveux. Effectivement, si on sort à une soirée en mini-jupe, on met un long manteau dessus. Il y a aussi la question, sur la question de l'habillement, la question des chaussures, hein, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont été interrogées, les jeunes femmes, qui disent qu'elles sortent souvent avec des souliers plats. Hein, donc quand elles veulent mettre des talons, elles mettent dans le sac, et quand on leur demande pourquoi elles mettent des souliers plats, elles disent pour pouvoir courir. Vous voyez, donc il y a cette constante, hein, finalement, de cette stratégie de la ville où on s'approprie la ville avec des précautions, hein, des précautions qui sont renseignées depuis le plus jeune âge et puis qui sont également renseignées par des événements périodiques, puisqu'il y a des performances masculines dans la ville avec qui sont extrêmement médiatisées, des viols, des agressions, qui renforcent finalement ce message, c'est que la ville est dangereuse pour les femmes et les jeunes filles. Aussi, ce qui est intéressant, c'est sur les mobilités. Les femmes, et mon collègue Guy Dimeo a fait cette même étude en parlant de murs invisibles, les femmes disent se déplacer ni trop vite ni trop lentement, ni trop vite pour ne pas faire croire qu'elles ont peur, ni trop lentement pour ne pas faire croire qu'elles cherchent quelque chose, avec une allure qui est extrêmement régulière, et puis évitent le stationnement. Ce qui caractérise les mobilités dans les femmes dans la ville, c'est d'éviter le stationnement. Le stationnement est toujours une inquiétude. Un certain nombre de femmes, de jeunes filles, mais vous pouvez faire l'enquête autour de vous, disent s'être arrêtées dans la ville, et quand on s'arrête dans la ville, la nuit, on a souvent une voiture, ou même presque toujours une voiture, ça dépend des quartiers, qui s'arrête pour vous demander, vous cherchez quelque chose. Et en fait, la figure de la femme qui stationne dans la ville, c'est une figure de femme qui est possiblement pro-sexuelle, possiblement consentante, voire une personne qui fait son métier de la prostitution. Donc là, on voit bien aussi, dans toutes ces travaux qu'on voit sur la ville, ces mobilités, hein, qui sont contraintes, et mobilités contraintes par au moins 2 facteurs. Je vois vous tourner vers moi, donc vous allez je vais finir
vous
ma phrase.
Vous n'interrompez pas encore, donc, bien sûr.
Non, mais vous ne m'intimidez pas, mais vous avez raison, hein, c'est Donc c'est au moins 2 facteurs importants, enfin au moins 3 facteurs importants, on peut dire. Premièrement, les charges familiales, hein, c'est-à-dire qu'effectivement la mobilité urbaine, eh bien, est largement prise par les courses, le ménage, les courses familiales, le fait d'accompagner les enfants, etc., plus que pour les hommes. Deuxièmement, par le fait d'être identifié comme objet sexuel dans la ville et de ce point de vue-là, d'avoir des circulations régulées. Alors évidemment, je fais juste une petite phrase pour faire le lien et puis après je ferai le lien avec la 3e étude, avec l'étude précédente. Si depuis leur enfance, on apprend aux filles à se tenir dans la périphérie de la cour de récréation parce qu'il y a la partie de foot au milieu, si on leur apprend à partir du moment où elles ont 11-12 ans que c'est dangereux de sortir de la ville la nuit, etc., et qu'on leur dit que finalement, elles ont peut-être autre chose à faire que d'être dans l'espace public, on voit bien comment il y a un apprentissage différencié de l'espace public par les filles et les garçons, et qui se traduit par une double injonction, eh bien, s'occuper prioritairement, y compris dans la carrière professionnelle, mais aussi de leur vie de l'intérieur, hein, et notamment de l'élevage des enfants, et puis, mais aussi du soin des personnes âgées, et puis effectivement un accès limité à l'espace public, qui est l'espace des garçons, à qui on donne, les études le montrent aussi, plus d'argent de poche, plus de moyens pour être présent et avoir des loisirs dans la ville. Donc le partage des tâches entre garçons et filles est largement construit par une éducation et notamment des politiques publiques qui ne font pas l'inverse de ce qu'il faudrait, enfin qui ne contrarient pas, qui consacrent les garçons dans les loisirs, le jeu, l'espace public, hein, avec cette réputation de délinquance qu'il faudrait les gérer à l'avance de façon préventive en leur donnant à jouer, hein, et des filles à qui on fait un pronostic d'entrée non délinquante, par contre douées pour les tâches ménagères et l'occupation des enfants.
Oui, alors par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, moi j'aimerais bien qu'on évoque un peu la situation suisse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'ici aussi, on est confronté aux mêmes difficultés des femmes dans la rue? Des enquêtes françaises ont sorti un chiffre impressionnant disant que 100% des femmes auraient été à un moment ou un autre de leur vie harcelées dans l'espace public. Est-ce qu'on peut dire, Nicole Bourg, qu'il en est de même dans notre pays?
Alors en Suisse, eh bien, on a moins de criminalité, on a des villes qui sont de taille plus petite, donc on a peut-être moins, ça sera moins exacerbé, mais je crois que 100% des femmes ici, je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire qu'une fois ou l'autre, on a été harcelées dans la rue, voire même touchées, voire même, enfin, il y a des choses désagréables qui nous sont arrivées. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire ici que... Alors, si vous voulez qu'on définisse le harcèlement, ça va être... Alors, oui, vous avez raison, ça va être sifflé dans la rue, c'est déjà du harcèlement pour nous. Hein. Être sifflé dans la rue, être touché dans les transports publics. Je ne sais pas si vous connaissez le film d'une Belge qui s'était promenée dans les
Sophie
rues
de... Peters.
Sophie Peters, merci. Qui s'était promenée dans les rues de Bruxelles et qui avait montré à quel point elle était finalement... sans arrêt, il y avait des invectives, des commentaires. Donc ça, pour nous, c'est déjà... Alors pour moi, en tout cas, c'est déjà harcelé. Peut-être pas pour vous. Après, il y a des codes, hein, évidemment, il y a des codes culturels et sociaux. Mais en tout cas, on considère ça déjà comme du harcèlement parce que se faire siffler dans la rue, ça peut quand même être inquiétant pour la plupart des femmes.
On va peut-être ajouter un mot, M. Rebaud, aimerait ajouter un mot sur cette question-là, justement, sur la question du harcèlement.
Oui, sur le travail fait sur le harcèlement, si vous voulez, ça va finalement, il y a une graduation du harcèlement de rue, il s'agit du harcèlement sexuel, hein, pas du harcèlement moral, qui va de la drague lourde, hein, c'est-à-dire l'interpellation dans la rue, hein, qui peut paraître pour certains de la courtoisie, mais qui est vécue comme un stress, ensuite qui va à ce qu'on peut appeler déjà l'agression sexuelle, c'est-à-dire embrasser de force, saisir par les épaules, ou bien les frotteurs-frôleurs du métro, avec un harcèlement qui peut être aussi inquiétant, comme le fait de suivre une femme jusqu'à son domicile, et qui va jusqu'à l'agression sexuelle et au viol, hein, le viol étant finalement l'acte sexuel prouvable par effectivement le sperme, etc. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que sur les jeunes femmes qu'on interroge sur le harcèlement de rue, hein, qui ont été interrogées, et puis sur de nombreux témoignages, eh bien, la drague lourde est aussi inquiétante que finalement est une menace de viol ou une promesse de viol. C'est-à-dire qu'elles le ressentent comme ça, de fait le même que d'être embrassées de force, etc. Donc d'une certaine manière, même si le fait d'être harcelé dans la rue n'est pas dans les statistiques de police quelque chose qui est noté d'une façon majeure, hein, on dit toujours les femmes sont plus agressées à leur domicile que dans la rue, dans les faits, eh bien, une étudiante qui a été suivie jusqu'à son domicile et qui a été obligée de courir et s'enfermer chez elle, eh bien, déménage, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas dans cette alors qu'il n'y a eu aucun contact physique et aucune agression sexuelle matérialisée, mais rien que le fait d'avoir été suivie est considéré comme une violence sexuelle. Donc c'est cette gamme-là qui sont en train d'être définies, qui ont été mal définies en Allemagne, qui commencent à être mieux en Belgique et en France, et qui permettent effectivement de lutter plus activement contre le harcèlement de rue.
Alors, Nicole Bourg, je vous redonne la parole pour poursuivre votre réponse sur la situation suisse.
Mais je ne crois pas. Alors, justement, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit très différent en Suisse de d'autres pays autour de nous. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus de choses à dire à ce sujet.
Par contre, ce qu'il y a à dire, peut-être, c'est qu'il n'y a aucune étude qui a été menée dans notre pays par rapport à ce qui peut se faire dans les pays environnants.
Effectivement, il n'y a rien qui nous dit en Suisse comment ça se passe dans les rues et si les femmes ont le sentiment d'être plus ou moins harcelées que dans d'autres pays.
Oui.
Peut-être juste sur cette question de différence Suisse-France, je pense que c'est important de situer le débat parce que Le titre est intéressant parce qu'il est provocateur. Je me demande si on peut faire cette relation ville durable, ville misogyne, parce que finalement, ce que vous relevez comme résultat, notamment il y a, dans votre travail, il y a quelque chose que je vous invite à lire, qui moi m'a le plus séduit, je dirais, dans les nombreuses choses intéressantes du travail de mon collègue, c'est le déroulé des rencontres participatives autour de questions de développement durable à Bordeaux. Alors je vous laisserai le développer après, mais ce qui est très intéressant, c'est non seulement des choses auxquelles on peut s'attendre, c'est-à-dire la dissymétrie entre les personnes présentes, donc le nombre d'hommes plus important, et aussi la prise de parole, mais dans le détail, comment la parole féminine est traitée, c'est traitée comme étant une question individuelle et concernant des cas particuliers et ne concernant pas vraiment la question qui était en jeu, qui est pour les organisateurs du débat et de la procédure participative, qui était le développement durable, la mobilité douce, etc. Et ça, en lisant ça, en même temps, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je me disais, alors je vais être soupçonné de chauvinisme, mais je suis plus suisse que suédois, je me disais, en Suède, c'est impossible. C'est que ce type de débat public, où il n'y a pas un souci d'une écoute symétrique et où il y a des rires goguenards quand une femme dit « Moi, le transport public, c'est un problème parce que j'arrive pas à équilibrer, j'ai besoin de la voiture pour amener mes enfants à l'école, pour aller au travail, pour faire les courses », personne ne rit en Suède, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire de la question du genre en Suède qui fait que c'est pas possible. C'est peut-être en train de changer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, rien n'est gagné, mais disons, ça me porte un peu à penser quand même que la question que vous travaillez sur ville durable avec l'impensé du genre est une question qu'il faut situer, et ça dit peut-être beaucoup de choses aussi sur la situation et la question du genre en France, hein, plus que ça n'en dit sur la question de la ville durable. Donc, et ça, je pense que c'est une question très importante à discuter. Après, il y a aussi toute la question du très intéressante, j'en dis juste deux mots, c'est le travail sur la question de la ville durable et du développement durable. Je crois que ce qui est important pour nous qui sommes chercheurs, c'est de faire ce que vous avez fait. Moi, la question du développement durable, c'est vraiment un problème pour la recherche, finalement. Hein, parce que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les tensions. C'est-à-dire que quand on travaille sur le rapport entre la question du genre et le développement de la ville durable, on travaille sur la tension entre deux aspects qui devraient être conciliables de façon magique dans le développement durable, qui est l'équité d'un côté, l'équité sociale d'un côté, et la protection de l'environnement de l'autre. Or, il n'y a que dans un récit d'une sorte de catéchisme du développement durable que ces trois questions peuvent cohabiter de façon absolument magnifique et sans tension. Dans la réalité de toute forme de développement durable, ces questions sont en tension. Il y a des tensions entre développement économique et équité sociale, développement économique, etc. Ces trois pôles sont constamment en tension. Et ce que nous devons faire, à mon avis, c'est ce que vous faites dans votre travail, c'est de travailler sur ces tensions, parce que c'est là qu'on peut apporter quelque chose. Et ce qui me frappe, moi, sur la question du développement durable, c'est qu'il y a souvent une confusion, c'est-à-dire qu'on finit par faire de la pseudo-recherche sur le développement durable qui n'est qu'une sorte de théologie, hein, c'est une sorte de catéchisme. On récite une histoire merveilleuse de la cohabitation magique, c'est comme l'Évangile. Hein, tout est merveilleux. Et ce n'est pas comme ça. Donc, il y a une question de... On ne peut pas travailler sur une question qui est posée de façon normative dès le départ. Ce n'est pas du travail scientifique. Donc, je trouve qu'il y a dans votre travail sur le rapport entre genre et développement durable, ça pose une vraie question à qu'est-ce qu'on fait du développement durable dans une université. C'est formidable comme objectif de l'administration de cette université. C'est un problème comme thème de recherche.
J'aimerais juste rajouter, parce que sur ce que vous avez dit par rapport aux participations des femmes, hein, alors vous avez dit quand une femme se plaint qu'elle doit amener ses enfants dans trois endroits de la ville, et puis qu'elle a trois enfants, puis elle doit amener ses trois enfants à trois endroits de la ville, puis qu'elle ne peut pas y aller en transport public, eh bien quelqu'un dira quelque chose qui est tout à fait, alors on peut tout à fait entendre ça en Suisse, alors même encore plus qu'en France j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui dit, mais enfin quand on a trois enfants, ben peut-être qu'on doit penser à arrêter de travailler. Voilà, alors ça c'est typique. Ça a d'ailleurs été dit, justement. C'est vraiment quelque chose que là on pourrait entendre chez nous tout à fait. Moi, je vois très très bien ça dans une assemblée comme ça. On dit, mais enfin, madame, si vous avez trois enfants, ben, peut-être imaginez que vous devriez rester à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort chez nous et qui est encore très très. Moi, ce qui m'embêtait dans votre justement dans l'analyse sur les femmes ont besoin d'aller en voiture, je vais faire un peu caricatural, mais jusque dans la cour de l'école parce qu'elles doivent amener leurs enfants à l'école. Moi, j'aimerais dire, moi, j'aimerais travailler en amont, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est les femmes qui doivent toujours amener les enfants à l'école ? Donc, j'ai envie de dire, ben, c'est ça l'inégalité. Donc, travaillons sur cette inégalité, et puis ensuite, on empêchera quand même les voitures d'entrer dans la ville, quand même. C'est quand même mieux. Puis on ira quand même à vélo, parce que c'est quand même mieux, je trouve.
Alors, après ce premier tour de discussion, j'aimerais bien ouvrir la discussion avec la salle et voir si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si il y a des choses qui vous frappent, des choses que vous auriez envie d'éclaircir. Les choses qui vous énervent et que vous avez envie de partager, vous êtes les bienvenus. Qui aurait une question ? Madame.
Je suis désolée, ce n'est pas vraiment une question, en fait, mais je voulais réagir. La dernière phrase que vous avez dite, là, quand j'ai lu le texte, avant d'arriver ici, il y a écrit... Que la ville n'est pas pensée pour les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui emmènent les enfants, etc. Je me suis dit, j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur de la conférence, je me suis dit dans quel genre de conférence je vais aller, est-ce qu'on va dire qu'il faut adapter la ville pour que les femmes puissent faire leur rôle de femme correctement, quoi. Mais du coup, ce n'était pas du tout ça, je suis assez contente de ça. J'ai trouvé votre intervention super intéressante, Monsieur Rebeau, parce que je me suis... Finalement, j'ai repensé à mon expérience et je me suis reconnue dans tout ce que vous avez raconté. Je suis française. Et j'étais dans un quartier qu'on appelle les US en France, c'est des zones urbaines sensibles. En fait, quand je repense au sport, on avait le terrain de foot, où j'y allais pas parce qu'il y avait que des gars, et culturellement, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de mixité dans ce genre de quartier. Il y avait la maison des jeunes, où il n'y avait pas d'activité typiquement masculine, mais il y avait quand même que des hommes, et j'y allais pas. Et du coup, en fait, les animateurs de ce quartier, qui étaient vraiment très impliqués, ils auraient rêvé d'un quartier mixte, mais ils ont pensé à créer une association qui s'appelait Cap Filles. Donc, où que les filles y allaient. Quatre filles, oui. Les activités qu'on faisait, c'était de la mosaïque, du poney, ce genre de choses, quoi. Mais moi, j'avais adoré à l'époque parce que ça me permettait de sortir, enfin de faire autre chose. Mais c'était juste pour partager mon expérience personnelle et de dire que c'était, enfin, j'ai vraiment hâte de lire toute votre recherche sur ce sujet parce que ça, je me suis vraiment retrouvée dedans. Merci beaucoup en tout cas.
Peut-être que c'est l'occasion de dire un mot de ce qui se passe à Genève, parce que vous avez entamé une recherche avec Genève, vous, Monsieur Rebeau, même si vous ne pouvez pas encore vraiment en parler, puisque ça commence à peine. Mais ce qu'il faut dire sur ces histoires d'espace public et puis de place du sport ou des activités filles et garçons, c'est que Genève a lancé quelques initiatives pour faire prendre conscience de cette problématique-là, qui est la même qu'en France. Et par exemple, le 8 mars 2014, il y a une action qui a été menée qui a fait que ce soit que les filles qui aient accès au skatepark, par exemple, et qui a provoqué peut-être quelques prises de conscience, mais l'étude va beaucoup plus loin et peut-être vous pouvez quand même en dire un tout petit mot.
Alors, je vais faire comme mon collègue, je ne vais pas vous obéir parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit là et là et je voulais peut-être juste dire une chose. Donc, si on imagine une ville qui est plutôt faite pour les loisirs des garçons, comme vous venez de le dire, hein, effectivement, vous avez adoré aussi le poney, mais peut-être que des garçons auraient adoré le poney aussi, hein, je veux dire, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais on privilégiait quand même les activités des garçons. Si d'un autre côté, on voit bien que dans la ville, eh bien, les femmes, et ce n'est pas leur nature, hein, vous avez raison de dire ça, ce n'est pas du tout mon propos, mais elles sont quand même de fait plus accaparées. On leur donne la vocation hein, de s'occuper des enfants, mais aussi des personnes âgées, que ce soit d'ailleurs dans leur vie personnelle que dans la vie professionnelle. C'est elles qui s'occupent des handicapés. Hein. Je crois qu'en Suisse et partout, c'est pareil aussi des personnes âgées. Donc là, on voit bien qu'il y a cette fonction de soin des autres hein, qui est massivement prise en charge par les femmes. Et ensuite, si on imagine cette ville où les femmes sont soit dévolues, assignées au care, au sale boulot des femmes, hein, c'est-à-dire de ce travail que, si possible, gratuit, de s'occuper des personnes malades, etc., etc., hein, qui est un travail non seulement mal payé, invisible, mais totalement indispensable à la société, parce qu'on sera tous, on a tous été petits enfants et on sera tous personnes âgées, donc il faudra bien qu'on s'occupe de nous. Hein. Donc on voit bien cette assignation hein, aux soins qui fait que bien, les femmes sont moins destinées à avoir des jeux, du loisir, etc., moins destinées à des carrières professionnelles peut-être aussi, et d'autre part que, eh bien, elles sont des proies sexuelles potentielles dans la vie.
ville. Qu'est-ce que ça dit sur la ville durable ? Eh bien, ça dit simplement que quand on dit on supprime la voiture, il faut marcher à pied, il faut faire du vélo, il faut prendre les transports en commun. Donc voyons ce que donne la marche à pied, le vélo et les transports en commun pour les femmes. Aujourd'hui, maintenant, dans cette condition-là, dans les études qu'on a faites sur le vélo, alors chaque fois qu'on parle du vélo, là, il y a des flambées, on dit « mais non, vous critiquez le vélo, etc. » Mais dans les études qu'on a faites sur le vélo, et pas qu'à Bordeaux, eh bien, on voit que les femmes au deuxième enfant, la plupart des femmes à leur deuxième enfant, arrêtent la pratique du vélo. Bon, alors que les hommes, à leur deuxième enfant, continuent la pratique du vélo. Voilà, donc c'est un fait, quoi. Évidemment, les femmes qui arrêtent la pratique du vélo à partir de 2 ans, eh bien, elles sont considérées comme des sous-développées, parce qu'effectivement, il y a des vélos géniaux, électriques, avec des poussettes devant, et on peut effectivement faire du vélo dans la ville. Puis on leur dit, vous avez tort d'arrêter la pratique du vélo, parce que le vélo, c'est pratique le soir pour échapper aux agresseurs, bien plus que la marche à pied. Et c'est les arguments que donnent les tenants du vélo. Vous voyez comment les inconscients travaillent, ne veulent pas contester ces pratiques de la ville durable. Mais j'ai eu ça avec un échange avec un collègue il n'y a pas longtemps, et qui prétend aussi d'ailleurs que le vélo c'est génial parce que ça résout un problème majeur qui est le problème de l'obésité. Donc je lui ai demandé comment on fait quand on est obèse pour faire du vélo. Et il m'a pris pour un imbécile, évidemment, on n'a pas à être obèse, on n'a qu'à faire du vélo. Vous voyez, donc ça veut dire aussi qu'il y a vraiment des choses qui sont tellement des croyances qu'on ne peut même plus les interroger. Sur la marche à pied, c'est pareil. Les tenants de la marche à pied disent « mais c'est une ville géniale, celle où on peut flâner, marcher à pied, faire des rencontres ». Et en fait, ils racontent la ville des hommes qui peuvent flâner, regarder les femmes, tout ça. Et puis, ils ne voient pas, effectivement, les enquêtes qui disent 100% des femmes ont été harcelées dans la rue. Hein, voyez ? Les transports en commun, génial, mais il faudrait quand même que ce soit à peu près correct, les relations entre hommes et femmes dans les transports en commun, qu'il y ait peut-être plus de transports en commun, que ce ne soit pas dans les transports bondés, où on est vraiment côte à côte et très serré. Voilà. Donc toutes ces questions-là, eh bien, c'est des questions iconoclastes par rapport à la ville durable, mais qui sont réelles. On ne peut pas dire la ville durable, et ensuite la ville durable qui est proposée par les techniciens de la ville durable, c'est une ville géniale, hyper connectée, intelligente, application smartphone, vélo, marche à pied, donc c'est génial, on peut flâner, on peut s'amuser dans la ville durable, elle est agréable la ville avec des espaces verts, et donc ça ressemble à la ville rêvée des hommes. J'y peux rien, culturellement, si je fais de la géographie culturelle, c'est la ville rêvée des hommes, la ville effectivement des poètes qui aimaient bien flâner dans la rue en suivant des prostituées, de Baudelaire à je sais pas quoi, tous les poètes qui parlent de la ville disent c'est génial, Venise la ville des amoureux avec ses 30 000 prostituées, Amsterdam, enfin voilà. Donc on a quand même aussi cette vision de la ville érotique qui est vraiment une vision d'homme. Donc on peut interroger et soupçonner que la ville durable, surtout quand elle est faite par les hommes, eh bien, et là j'en viens quand même un petit mot de commentaire sur le travail sur la participation au projet urbain, où effectivement, très certainement, là on est un pays quand même du sud, hein, un peu arriéré, mais effectivement quand on parle de les mobilités dans la ville durable, avec des grandes opérations de concertation, donc je vous invite à lire les textes que j'ai fait, l'enquête que j'ai fait sur ces sujets, eh bien la parole des femmes n'est pas entendue. Hein. Et donc là aussi, on se peut se poser cette question, et pour répondre, vous avez une réflexion tout à fait judicieuse, et je voudrais me dédouaner de votre soupçon, hein, de victimiser les femmes ou de leur attribuer les choses, c'est de dire que la ville durable, ce serait peut-être une ville qui s'occupe des gens. Hein. La ville durable, c'est peut-être une ville qui se reproduit. C'est-à-dire où on a des conditions pour avoir des enfants, hein, qu'on soit des hommes ou des femmes, et où on peut les élever correctement. Où on peut vivre quand on est une personne âgée sans avoir peur de se faire renverser par une voiture ou par un vélo. Où on peut se déplacer en toute sécurité sans faire se voler son sac à main. Voilà, donc ça aussi, il y a cette ville durable, hein, qui est cette ville du soin des autres. C'est une ville dans laquelle tous, les uns et les autres, on sera handicapés un jour de notre vie, soit par un accident de sport, comme ça arrive souvent aux hommes, où tout à coup ils découvrent ce que c'est que d'être handicapé dans la ville, ils en sont très malheureux, soit simplement par la vieillesse. Donc d'une certaine manière, cette ville durable, eh bien, c'est une ville aussi qu'il faut réfléchir avec l'idée du soin des autres, de la durabilité, et pas simplement de la durabilité des micro-particules, de l'économie d'énergie et des transports intelligents. Et là, on voit bien deux mondes qui s'opposent. Il y a un monde masculin, de technologie, de mise à distance, d'architecture, de projets urbains, qui est d'ailleurs le monde, quand on a des panels sur la ville, c'est pratiquement que des conférenciers hommes qui trouvent des solutions pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de femmes vraiment qui soient écoutées dans le domaine de la ville durable. Je donne juste un petit détail. C'est de ces experts qui nous racontent comment la ville durable de demain, comment il faut la gérer. Ils disent, ils votent à l'unanimité des motions telles que aller à pied à l'école, il faut aller à pied à l'école pour éviter les embouteillages dans la ville, alors qu'on sait que les femmes prennent moins la voiture que les hommes et plus les transports en commun, et qu'elles l'utilisent pour accompagner les enfants, eh bien, il va falloir que tout le monde aille à pied à l'école. Mais dans ces décisions qui sont prises, eh bien, on ne demande pas l'avis des femmes, qui vont avoir peut-être 3 enfants dans 3 écoles différentes et qui approvisionnent. Ou alors on trouve des solutions du genre, dans les années 60, on disait « Moulinex libère la femme », c'est-à-dire pour que les femmes aient moins de tâches ménagères, on a inventé la machine à laver, la machine à coudre, les soreuses, etc. Et comme ça, les hommes intelligents qui avaient inventé des technologies pour les femmes, eh bien, ça leur permettait de passer de 3 heures de travail ménager à 2h27, hein, grâce à la technologie. Eh bien, il se passe la même chose sur la ville durable. On dit « on va faire une connexion avec les grands parkings de supermarchés périphériques, on va mettre... » de façon à faire des transitions modulaires. Donc, les gens qui habitent autour de la ville pourront se garer sur ces parkings de supermarchés et trouver un tramway. Et en même temps, autour de ces parkings de supermarchés, on va implanter des crèches, des écoles. Hein. Donc, effectivement, le citadin pourra effectivement laisser sa voiture, aller au travail et récupérer ses enfants à l'école, faire laver son linge. Ça, c'est vraiment les technologies masculines. C'est là comment aménager la vie des femmes d'une façon intelligente, puisque les femmes n'ont pas trouvé la solution toutes seules, et de façon à ce qu'elles arrive à pouvoir être à la hauteur de la ville durable. Parce que sinon, elles seront des mauvaises citoyennes. Elles prendront la voiture au lieu d'aller en voiture, en vélo à l'école. Et là, on voit l'absence complète de participation des femmes au projet urbain épatant. Et en même temps, avec un discours de culpabilisation qui fait que si on n'est pas à la hauteur de cette ville magnifique qu'on nous promet, eh bien, à ce moment-là, on en est responsable. Hein, comme le sont peut-être aussi d'autres populations migrantes ou autres qui n'ont pas les codes de la ville durable. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre réaction ?
Oui, moi aussi. C'est bon ? Oui. Moi aussi, j'ai une question. En fait, peut-être j'ai la chance, mais je ne crois pas me souvenir que j'ai jamais été harcelée dans la rue. Et je suis aussi un peu écolo, donc je prends le transport public, je vais à vélo, je marche à pied. J'aime bien flâner dans les rues pour regarder les hommes aussi. Et quand c'est la nuit, il n'y a plus de bus, moi je marche les 2 km à la maison, même à 3 heures du matin. Donc là, j'ai peut-être la chance parce que c'est Neuchâtel et je me sens très sûre parce que c'est juste que je ne le ferais pas si je ne le faisais pas si j'étais dans une autre ville. Donc ma question, c'est un peu pour les femmes qui sont ces peurs ou qui ne se sentent pas sûres, quels moyens est-ce que les villes peuvent se proposer pour que ça change un peu pour elles ?
Oui. Alors on est au stade des préconisations, hein. Je veux dire, là aussi, il y a... des travaux qui sont faits. Vous m'aviez demandé de parler de la ville de Genève, hein, mais je pourrais parler aussi de la ville de Paris, de la ville d'Angers, et puis aussi de modèles. Hein. On a des modèles, le modèle suédois, hein, certainement. Donc je confirme quand même que 50 ans, enfin presque 100 ans de social-démocratie et 50 ans d'égalité femmes-hommes, ou 60 ans, eh bien, ça a marqué profondément la vie politique suédoise. Donc je crois que c'est un projet politique, hein, certainement. Et alors ce projet politique, eh bien, il peut être aussi incarné par des villes exemplaires. Donc la ville de Vienne, en Autriche, eh bien, depuis 6 ans première au classement mondial des villes à bonne ambiance urbaine, hein, pour la qualité de ces ambiances urbaines. Mais il faut savoir que depuis 20 ans, et de façon très forte depuis 15 ans, il y a un bureau de l'égalité femmes-hommes très important et qui a fait une approche intégrée de l'égalité dans la ville en réfléchissant sur le mobilier urbain, sur la signalétique, sur les budgets de quartier, sur etc. Et donc un travail systématique d'égalité qui a été fait avec aussi beaucoup de choses qui sont spectaculaires, astucieuses, de mettre des panneaux école avec un homme qui accompagne ses enfants, des panneaux chantier avec une travailleuse avec des petites nattes, aussi des enquêtes, des marches exploratoires avec des viennoises qui ont dit, bah là, ce serait mieux, mais c'est bien qu'il y ait des espaces verts, mais ce serait mieux si les troènes, enfin les petits arbres étaient coupés à mi-hauteur, de façon à ce qu'on ait de la visibilité. Dans les abribus également, de faire des abribus en verre, de façon à avoir une visibilité circulaire. La ville de Vienne, depuis longtemps, a freiné les équipements urbains tels terrain de boules, skatepark, citystade, qui représentaient des centralités masculines dans les quartiers, pour faire une ville plus fluide, dans laquelle on peut circuler. Et tout ça s'est fait aussi, pareil, sur les éclairages, une ville bien éclairée, une ville où il y a beaucoup de transports en public, qui fait qu'on n'est pas serré trop dans les transports communs. Et donc là aussi, on connaît toutes les solutions, hein, pour cette ville durable. On connaît aussi les solutions éducatives pour que les petites filles, eh bien, apprennent la ville durable. Et il faut leur dire, n'ayez pas peur dans la rue, allez à vos activités. Peut-être emparez-vous, hein, de la centralité, etc. N'hésitez pas à faire du sport, du jogging, à vous emparer en courant ou en faisant du vélo de la ville. Hein. Et là, actuellement, sur les études que j'ai, mais ça va être pareil, je pense, à Genève, on a une chute très importante de la pratique du vélo chez les petites filles. elles font plus de vélo. Hein. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Le jour où on dit que le vélo c'est important, eh bien si on est dans des villes où les filles ne font plus de vélo, ça pose un problème. Hein. Les garçons continuent à faire du BMX, du VTT, et les filles on leur dit non, ne sors pas en vélo dans la rue, c'est dangereux. Hein. Et c'est pas qu'à cause des voitures.
Ouais. Oui, je peux peut-être juste compléter sur le vélo. C'est vrai que quand j'ai lu votre étude, j'étais étonnée de voir que 60% des cyclistes en fait sont des hommes. Je ne pensais pas que c'était comme ça en Suisse. J'ai vérifié et effectivement c'est vrai. Il y a 60% des cyclistes qui sont des hommes et que 40% des femmes. Pourquoi les femmes font moins de vélo? Alors il y a peut-être l'aspect des enfants, mais encore une fois, à mon avis, ça c'est un problème de partage des tâches et on va plutôt essayer de travailler là-dessus que sur le fait qu'elles aillent en voiture partout. Mais il y a aussi le fait que le vélo est quand même perçu comme quelque chose de dangereux dans la rue. Les villes ne sont pas bien adaptées avec des pistes cyclables et la ville de Neuchâtel est un exemple où ce n'est pas non plus partout la sécurité. Il y a aussi le fait que souvent on met un casque, donc d'ailleurs les défenseurs du vélo n'aiment pas trop le fait qu'on porte un casque parce qu'ils disent mais ça montre déjà que c'est dangereux, donc les femmes n'aiment peut-être pas trop cette idée qu'il faut, voilà, faut s'armer pour partir dans la rue avec le vélo, et il y a peut-être un aspect de sécurité là qui est évident. Après, il y a l'aspect aussi, peut-être les cheveux, on ne veut pas mettre le casque sur les cheveux, on a des talons, alors comment est-ce qu'on va pédaler avec des talons? Enfin, il y a tous ces aspects-là qui n'ont peut-être pas forcément tout à voir avec la sécurité, mais qui fait que les femmes ne sont peut-être pas trop non plus sujettes, enfin, elles n'ont pas trop envie de faire du vélo, mais il faut qu'elles en fassent petite. Je vais juste dire quand même que justement, le programme Genevois, il a un très joli slogan qui s'appelle « Moins de clichés, plus de liberté ». Je trouve qu'on pourrait l'appliquer à plein de choses, donc c'est pour ça que je tenais à le dire.
C'était ouais. Un des exemples hein, dans la campagne ouais. Qui a été menée à Genève.
Avec les petites
filles. Ce genre d'image qui a été diffusée. Ouais.
Et puis aussi dire qu'au Parlement de la ville de Genève, justement, il y a une motion qui a été déposée en juin 2014 qui demande justement qu'on calcule ce qu'on donne aux garçons et ce qu'on donne aux filles hein, en termes de budget. Et comment est-ce que les espaces sont utilisés par les filles et les garçons. Et puis j'aime bien le projet, enfin la motion, parce que les termes de la motion, ils parlent dans la motion de rente masculiniste. Et je trouvais que c'était assez un joli terme pour dire qu'effectivement, il y a une espèce de rente qui fait que la ville appartient plus aux hommes.
Il y a une question, une remarque.
Oui, je réagis là-dessus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Genève propose comme activité féminine pour les fillettes, mais en reprenant les exemples de Bordeaux, etc., si ça veut dire que d'un seul coup, on ouvre plein de salles de danse classique et de majorettes et de je ne sais trop quoi, et que du coup, on retourne dans le cliché de les filles font de la danse en tutu rose et puis les garçons, ils font du foot en short bleu, finalement, on n'en sort jamais. Donc, on n'arrive pas à rompre du tout le cercle. Et puis, on continuera pendant des générations à avoir des filles en tutu, puis des garçons qui font du foot.
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. La première, il y a deux démarches. Il y a une démarche d'égalité. Hein. Ça veut dire actuellement que sur la ville de Bordeaux, où on mène une politique d'égalité femmes-hommes dans le sport, eh bien, la mairie de Bordeaux ne peut plus refuser une salle à une activité féminine, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut considérer l'équipe de foot féminine comme la danse, comme n'importe quelle activité féminine, parce qu'il y a un tel déficit d'attribution de moyens que toute activité. Et donc, c'est plutôt du côté de l'empowerment des associations féminines qu'on l'attend. Hein. Et d'ailleurs, quand un club de rugby ouvre une section féminine à Bordeaux, elle est remplie tout de suite. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Après, moi, je refuse de valoriser ou dévaloriser. Hein, si vous voulez. Je pense que ce serait très bien qu'on apprenne aux garçons et aux filles, aux garçons à chanter et danser. Ça leur ferait beaucoup de bien, je pense. Ça nous fait beaucoup de bien hein, de faire autre chose. L'éducation populaire, autrefois, ça veut faire ça aussi en faisant des grands jeux qui étaient faits exprès justement pour la cohabitation des filles et des garçons avec des jeux de foulard où on pouvait se mouvoir effectivement, mais en évitant le contact physique avec les jeux de béret, avec des jeux comme aussi inspirés du baseball, enfin les ancêtres du baseball avec les îles, de façon à faire à permettre des jeux mixtes. Hein, des associations d'éducation populaire savaient le faire. Il y a aussi des enseignants en éducation physique et sportive qui négligent, abandonnent les grands sports de compétition ou les mettre de côté dans leur enseignement et privilégier l'escalade, l'acro-gym, hein, ce qui est une collaboration de garçons et des filles, l'ultimate frisbee, etc. Donc il y a plein d'activités physiques qui ne sont pas connotées, hein, genre. Et puis après, eh bien, il faut aussi favoriser effectivement l'introduction des filles sur les terrains des garçons, parce que c'est nécessaire, mais pas que. Parce que c'est pareil aussi, si l'égalité femmes-hommes, c'est simplement faire que les filles puissent être camionneuses, ingénieurs, etc., on sait que de toute manière, il y aura des plafonds de verre. Mais il faut peut-être que les garçons aussi, de l'autre côté, ils soient aussi aides-soignantes, ils soient encouragés, les champions qui veulent être un site maternel, ben, ils puissent y aller, ils puissent être dans le soin. Hein. Donc je crois que là aussi, c'est effectivement un projet politique d'éducation. Et à mon avis, ce projet politique, il a été, depuis 50 ans, hein, centré sur les filles, la promotion des filles, mais il a laissé complètement à l'écart les garçons. C'est-à-dire qu'on on s'est pas interrogé de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir intégrer dans une société mixte des garçons qui, depuis 4 ans, sont drogués à la virilité, à même pas peur, même pas mal, la compétition, ne pas pleurer, etc. Voilà, comment est-ce qu'on va les réintégrer dans la mixité après ? C'est ça le problème, c'est ça le chantier. Hein, c'est aussi cette question de la fabrique des garçons. Voilà.
Monsieur Söderström ?
Sur ce point, je pense que la question du calcul, de la mesure, des choses qu'on ne mesurait pas, c'est-à-dire où vont les investissements, c'est une mesure importante. En même temps, c'est évidemment, vous le savez bien, c'est quelque chose d'un peu glissant, et je crois que ça va un peu dans le sens de votre question. C'est-à-dire que qui code ? C'est parce que qui va dire telle pratique est féminine ou masculine ? Et ça revient à la question de comment est-ce qu'on définit des priorités des politiques. Et si vous voulez voir l'inverse ou le contraire de ce qu'il faut faire, il faut lire l'étude de mon collègue sur les démarches participatives, parce que c'est uniquement basé sur l'échange verbal. Hein, et donc il y a toute une question de prise de pouvoir et de ceux qui ont une aisance oratoire et de ceux qui sont plus ou moins polis, etc. Alors qu'un bon dispositif participatif, et on devrait le savoir en 2016, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est faire remonter une expérience de la ville, un usage. Et si on commence à définir les choses à partir de l'usage concret des gens, c'est-à-dire que si vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire du twirling bâton, vous êtes un garçon, vous êtes une fille, ah ben oui, j'ai envie de faire du twirling bâton, je suis garçon, je suis fille. Là, on commence à pouvoir faire quelque chose où le codage, donc je prends cette question-là, parce que le codage, il pose ensuite la question de la mesure et de calcul de budget et de leur investissement, mais c'est aussi toute la question de la définition des équipements, la définition des aménagements qui doit partir non pas d'une sorte de décret ou de décision et de partage et de catégories qui viennent d'en haut, mais devrait partir quand même d'une connaissance et d'une expérience que les gens ont pratiquement de la ville.
Donc, moi, je reviens au vélo. Donc, quand j'avais des enfants petits, nous habitions pas très haut à Neuchâtel, donc on pouvait aller à vélo facilement. Et puis ensuite on a déménagé parce que c'était trop petit, c'était très difficile à trouver un logement. Et à présent, je suis vieille, j'ai eu un accident, ça fait 28 ans, sur un passage pour piétons, une voiture m'a renversée. Alors j'ai été partout à vélo, mais j'arrive plus à monter chez moi. Alors, surtout, et même à la descente, on arrive à la rue du Château, on n'a plus le droit d'aller à vélo. Qu'est-ce qu'on fait ? On le pose là, tout à coup, on n'a plus le droit. Et puis, pour remonter, c'est vraiment dur. Alors, pour moi, et puis, ça fait quelques mois, je ne vais plus à vélo. Pour le moment, j'ai eu 8 amendes. J'ai une carte d'handicapé, j'ai eu 8 amendes. Il paraît que tous les endroits où on pouvait mettre la voiture avant, maintenant, il y a forcément un camion qui va venir, mais à 15 tonnes sûrement, parce que j'ai une toute petite voiture. Alors, je voulais dire, le processus participatif.
Quelle est votre question ?
J'ai beaucoup de choses. C'est tous des sujets, des remarques au sujet de ce que vous avez dit. Hein ? Alors, la population vieillit, les transports publics augmentent. Moi, j'ai dû déménager parce que c'était impossible en hiver. J'arrivais plus à descendre jusqu'au trolleybus. Il n'y avait pas de rampe, il n'y avait pas de trottoir. Et puis, où je suis, ce n'est pas beaucoup mieux. Non, je n'ai pas trouvé, mais j'ai déménagé un tout petit peu plus bas. Mais c'est toujours aussi difficile.
Madame, si j'ose, quelle est votre question par
j'ai des remarques sur plusieurs choses. Alors, on parle, comme maintenant, je viens de venir, j'étais en voiture, mais avec l'essence unique. Bon, j'ai dû reculer. Alors, il y a une nouvelle loi, on n'a plus le droit de reculer. Il faut polluer pour faire tout le tour du quartier. En plus, on fait des économies de lumière. Alors, autour d'ici, on ne voit pas où on met les pieds. Hein. Puis pendant tout un mois, on a des illuminations dans la ville en décembre. Donc la sécurité, ben, on a des équipes maintenant qui s'appellent sécurité urbaine. Et ben, moi, je crois qu'ils m'ont mis une puce sur ma voiture parce que je ne peux plus venir. J'ai peur d'arriver à la voiture et puis d'avoir une amende de plus. Et ils sont tout contents chaque fois qu'ils m'en donnent une.
Ok.
Bon, alors pour les petits écoliers, il y a le Pédibus à Neuchâtel. Il ne faut pas seulement voir Genève et Vienne et je ne sais où. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire encore?
Bah, je crois qu'on a bien compris votre message, madame. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air de tout à fait en phase avec le développement durable.
Je suis pour ça.
Et une
je
ville qui ne serait pas complètement...
Rouge, mais c'est plus applicable, c'est pas
qui
possible.
Qui ne serait pas complètement en phase avec les principes du développement durable. Merci.
Peut-être on peut dire un mot. Ce que vous venez de dire, madame, eh bien, ça correspond aussi à ce qui serait possible de faire dans une ville où la coopération, la concertation et la participation seraient essentielles. Puisque, imaginons qu'on vous consulte eh bien, sur cette ville, eh bien, vous auriez certainement des avis très intéressants, à savoir, effectivement, pourquoi est-ce qu'on éteint la lumière la nuit, alors que maintenant, on peut mettre des LED qui consomment très peu, et puis qu'on continue, effectivement, à éclairer au moment de Noël ou les stades, etc., que ça coûte très cher. Donc, je crois que là aussi, toute l'idée des marches exploratoires, de la participation, et notamment des participations des personnes... qui ne parlent pas dans les débats publics à la conception de la ville. Hein. Donc, eh bien, me paraît l'arpentage des villes par les citoyens qui voient les choses qui ne vont pas. Ça me paraît de nature à améliorer la ville. Voyez, je crois que c'est là on est au stade des solutions, qui est la concertation. Et je suis très attentif à ça, à la question des personnes âgées qui sont, ne l'oublions pas, une majorité de femmes. Hein, voilà, donc il y a des femmes qui vivent seules dans la ville. Et c'est ce fait aussi que, eh bien, l'urbanité, enfin l'emprise sur la ville, hein, il y a des travaux qui sont faits aussi là-dessus, eh bien, à un moment, diminue. Et quand on ne peut plus aller dans la ville parce qu'on est renversé ou qu'on a plus la paupière, on risque d'être en difficulté dans la ville, eh bien, on reste chez soi. Hein. Et donc, il y a des villes où les personnes âgées ne sortent plus de chez elles. Par contre, il y a des travaux qui sont faits, par exemple, sur des villes du littoral, balnéaires, hein, où là, tout est conçu pour des promenades, où il y a des toilettes publiques, où il y a des bancs pour s'asseoir le long des plages. Et donc, ce sont des lieux résidentiels où les personnes âgées peuvent continuer à avoir une vie sociale et une vie d'emprise spatiale très importante. Donc là, on sait bien que cette question-là, elle est extrêmement importante. Et effectivement, c'est une question aussi qui est liée au rôle des femmes et des hommes. Hein, et qu'effectivement, dans les maisons de retraite, dans les établissements pour personnes dépendantes, eh bien, il y a une très, très grosse majorité de femmes. Donc c'est aussi quelque chose qui est dans les préoccupations. La ville durable, c'est ça. Et c'est une ville où, justement, toutes ces questions microscopiques hein, que vous soulignez eh bien, sont évoquées dans le débat public et pas simplement une ville de techniciens qui dit comment doit être la ville durable en fonction des impératifs de la pollution, du changement climatique et de la circulation. Voilà.
On a des rencontres dans les quartiers et on ne tient pas du tout compte de notre famille. Voilà, maintenant, on a une pétition sur notre famille.
Je suis en train de faire signer une pétition avec d'autres personnes parce que monsieur, qui se nomme par OA, à Neuchâtel, qui veut absolument qu'on participe. Alors, sur le terrain de football en face de chez moi, il voulait construire des appartements, mais en pleine nature, pas très grand, avec plein de verdure autour pour les étudiants, parce que les étudiants n'ont pas de voiture, comme c'est déjà des embouteillages. Comme maintenant, j'avais du mal de venir parce que dans ma rue... on doit attendre que quelqu'un fasse des manœuvres pour qu'on puisse se croiser. Hein? Alors, voilà. Donc, je vois ce que j'avais dit. Alors, maintenant, il ferme. Alors, ce monsieur OA, il a dit qu'il faut revitaliser la vie de quartier. Alors, il supprime les quatre bureaux de poste qui ne sont pas en ville. Et toutes les personnes âgées qui viennent, qui sont affolées, qui sont... Voilà. J'ai même eu une amende pendant que je faisais faire signer ces...
Voilà. Pour continuer un peu dans la politique locale, mais peut-être de façon un peu plus apaisée, on parlait tout à l'heure de la Smart City. C'est une question sur laquelle je travaille. Par contre, je ne travaille pas sur la question de la ville durable, mais vous savez qu'il y a des modes hein, dans les recettes ou les modèles qui guident les politiques de développement urbain. La nouvelle mode, c'est la question de la Smart City. Hein, donc la ville, dont le développement urbain, l'organisation, la gestion est aidée et développée et se repose sur les technologies de l'information et de la communication. Et c'est important parce que ce sont les investissements, c'est les questions qui se décident aujourd'hui et sur lesquelles les citoyens doivent se positionner. Et pour dire que tout ne va pas mal à Neuchâtel, il y a des velléités qui ne sont pas encore complètement traduites en action, qui est de dire, est-ce qu'on peut faire à Neuchâtel une sorte de ville intelligente, de smart city, qui soit un peu différente qu'ailleurs? Et je tente un peu d'avoir une voix dans ce débat, même si je suis un peu je vais pas toujours à Neuchâtel, malheureusement. Mais je pense que c'est une question importante. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on on retrouve, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, un intérêt, parce que les entreprises qui développent des technologies d'information sont très actives autour de ces questions-là, à ce que tout commence par la technique. Hein, et notamment les questions de développement durable, l'économie d'énergie. On a la solution technique, hein, et ensuite on va l'implémenter. Ce qui pose le problème de l'usage, de l'importance, de la priorité, de la démocratie autour du développement technique. Et ce sur quoi je travaille actuellement, c'est au fond de dire, mais il faut définir, cette question de la technologie, elle est très importante, elle est incontournable, elle est très séduisante. Donc il faut s'engager sur ces questions-là, mais il faut la redéfinir. Et mon cheval de bataille, et j'espère le faire un peu avancer, par petits pas, à petits trots dans la ville de Neuchâtel aussi, c'est de dire si on veut travailler sur la ville intelligente, il faut travailler sur une ville intelligente qui ne soit pas intensive en technologie, où on fait ce que les Anglais appellent du technology push, voilà la technologie, et ensuite trouver au fond l'usage qu'on peut en faire, hein, ce qui est en général ce qui est fait, mais partons plutôt des questions de connaissances, hein, on en a parlé de l'expérience de la ville, des besoins, madame parlait de ses besoins, ses problèmes de mobilité. Partons de là pour essayer de répondre à ces questions-là et trouvons la technologie si elle est nécessaire. Parfois, la technologie n'est pas indispensable pour trouver une solution et implémentons-la par rapport à une démarche qui est intensive en connaissances et pas en technologie. Et là, il y a des vraies questions sur lesquelles on va peut-être être appelé à se prononcer les uns et les autres autour d'investissements. On parlait de la pelouse, de la maladière, peut-être qu'on va parler de grands investissements autour de technologies, d'éclairage. Et je pense qu'il est important d'être attentif à ça ici à Neuchâtel aujourd'hui.
On prend encore peut-être une ou deux questions. Remarques ? Réactions ?
Ah, madame ?
Moi, j'avais une question, une remarque par rapport à ce harcèlement de rue dont on parle beaucoup maintenant. Est-ce qu'on est sûr que les hommes sont si sûrs que ça dans les villes ? Est-ce que c'est vraiment une question uniquement féminine ? Est-ce que ce n'est pas une question d'âge et de génération aussi ? Parce que j'ai le sentiment, moi, je vis dans une campagne très tranquille, donc je n'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que les hommes n'ont plus, à partir d'un certain âge, ou depuis un certain âge, ne sont pas si sûrs que ça dans les villes. Est-ce que c'est vraiment qu'une question féminine ?
Alors, je crois que samedi dernier, il y a eu une émission sur ce sujet à la radio-télévision suisse. Et je suis assez d'accord avec mon collègue Philippe Lyotard. Et puis, il y avait cette personne qui est au vert de Lausanne. Voilà. Et donc, sur le harcèlement. Ce qu'il disait, il a dit quelque chose, Philippe Lyotard, mon collègue de Lyon, que j'ai vécu moi-même. J'ai été harcelé étant enfant. Donc, j'allais à Paris avec un maleçon de violon. Et je me suis retrouvé coincé par à l'époque, un vieux bonhomme. Ça se trouve, il était plus jeune que moi maintenant. Mais je l'identifiais comme un vieux bonhomme qui m'avait coincé et m'avait tripoté dans le métro. Et j'étais descendu à la station. Et du coup, après, je ne voulais plus aller à la maleçon de violon. Mais je ne l'aurais pas dit à mes parents que j'avais été tripoté. Donc, j'ai vécu, en travaillant sur le harcèlement, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais été harcelé. Plus tard aussi, par un gay, quand j'avais 16 ans, qui m'avait suivi jusqu'à mon domicile. Hein, voilà, avec vraiment du harcèlement. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous n'avons pas été harcelés de façon systématique. Quand je sors dans la rue, je vais rentrer ce soir à Neuchâtel. Je n'ai pas peur d'être harcelé. Donc là, on a vraiment ce côté systématique, effectivement. Oui. Peut-être que les Suisses sont particulièrement relous. Hein, voilà, c'est ça. Donc, mais il y a quand même cette différence. Et l'agression, quand on interroge, parce qu'on a évidemment interrogé des échantillons d'étudiants garçons, et en fait, ils n'ont pas peur dans la ville. Quand ils ont peur de la ville, c'est la peur de prendre un coup, de se faire voler leur portefeuille, mais ils n'ont pas peur de l'agression sexuelle. Donc là, on voit bien quand même l'asymétrie de cette ville où la ville de l'espace public, les femmes sont des proies potentielles dans la
la ville, elles ont des risques dans la ville. Et si on devait reprendre l'exemple de ces énervants suédois qui font tout bien, quoi, hein, je dis ça amicalement, mais ils ont trouvé une solution précise, hein, qui consiste à pénaliser le client dans le domaine de la prostitution, qui a permis de faire descendre le taux de prostitution de façon très importante, hein, c'est pas encore gagné tout à fait, mais et qui en fait supprime aussi ce personnage de la ville traditionnelle masculine qui existe avec des hauts et des bas depuis le Moyen-Âge, mais aussi dans l'Antiquité, de la prostituée, qui fait que la ville de plaisir, eh bien, c'est la ville des hommes où les femmes qui stationnent sont accostables parce que potentiellement... voilà. Et je crois que ça, ce sont des choses, des symboliques dans la ville qui sont extrêmement importantes. Pouvoir, quand on est une femme stationnée dans la rue sans être immédiatement abordée par quelqu'un, pouvoir aussi marcher dans la rue devant des personnes qui stationnent sans être pris pour un client par les prostituées, c'est la même chose aussi, hein, me paraît être un symbole extrêmement fort de l'égalité des femmes et des hommes dans la ville, en particulier la nuit. Voilà. Et je crois que là, il faut venir aux fondamentaux de la sexualité, hein, justement de ces sexualités non consenties à l'intérieur de la ville, et parce qu'elles sont au cœur de la répartition entre espace public et espace privé, entre finalement une destination esclavage domestique à la maison pour les femmes et proie potentielle dans la ville, et puis la ville de tous les plaisirs pour les hommes. Et bien, cette articulation de la ville, c'est à cette symbolique-là, de cette symbolique-là qu'il faut partir pour interroger les nouvelles technologies, interroger les projets sur la ville, interroger les projets politiques en disant, est-ce que ce n'est pas des projets d'hommes ? Et très souvent, on voit que finalement, aussi dans les technologies, eh bien, on a un univers masculin qui met l'affect au loin, qui résout par des problèmes techniques et qui n'écoute pas la voix, effectivement, de ceux qui s'occupent des autres. Hein. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment une asymétrie entre femmes et hommes qui nous oblige, nous aussi, les hommes, à faire cette démarche, c'est-à-dire à dire qu'est-ce que je fais du soin des autres, hein, qu'est-ce que je fais des enfants, des personnes âgées, et d'interroger la construction des hommes dans la ville. Et je crois que ça, c'est un problème où j'invite beaucoup plus d'hommes que ça à s'engager, hein, sur cette histoire d'égalité et même à être féministe. Hein. Je pense que c'est une position politique. Hein. Le machisme est mon ennemi politique, d'une certaine manière, je crois. Hein. Et le féminisme est tout à fait possible pour des hommes, avec des nuances, d'une position particulière du fait qu'on est des hommes. Mais c'est un projet politique, à mon avis, qui peut être central dans l'aménagement d'une ville. Voilà.
Moi, j'aimerais revenir sur justement cette peur que les femmes peuvent avoir dans la ville. Je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus. Évidemment, on peut dire qu'on a. Moi, j'ai pas peur non plus si je sors dans la rue à Neuchâtel. Je n'ai pas peur de la ville. Par contre, il y a quand même d'autres signaux qui nous paraissent pas comme quelque chose de finalement d'anormal. Mais si on pense, moi, j'ai une fille de 17 ans, par exemple, si elle sort le soir, quand elle sort avec son short, par exemple, en été, mais elle met un short comme beaucoup de filles de son âge. Eh bien, quand elle sort le soir, je lui dis quand même. C'est peut-être pas vraiment terrible de sortir en short. Alors elle me dit, mais quand même, tu t'es battue pour que les femmes, quand même, qu'on ait le droit, que notre corps nous appartient, etc., etc. Je suis d'accord avec elle, mais je lui dis, oui, mais tu vas susciter des choses, je suis sûre que tu vas susciter des choses que tu n'imagines même pas. Et puis, j'ai peur pour elle. Et je pense que si elle, en plus, alors si quelqu'un, et vous connaissez très bien le réflexe, si elle se fait agresser, on dira, mais enfin, qu'est-ce qu'elle faisait en short à 2h du matin, à son âge, dans la rue ? Donc c'est vrai que les femmes ont intégré un tas de choses qui les protègent, vous l'avez dit tout à l'heure, elles s'habillent différemment, elles mettent peut-être pas des talons, elles vont intégrer un certain nombre de règles qui nous paraissent être normales, et puis qui sont quand même des règles de ben, on n'est pas tout à fait égaux, enfin les garçons peuvent sortir à peu près comme ils veulent, et les filles peuvent certainement pas sortir le soir comme elles veulent, en tout cas les jeunes filles, elles sont sans doute quand même un peu à risque, et c'est ça quand même qui fait la différence. Après, je pense qu'il faut éduquer les filles, il faut leur donner confiance, et on est tout à fait d'accord, mais il faut aussi éduquer les garçons, vous l'avez mentionné, ou vous l'aviez mentionné avant, il faut aussi éduquer les garçons et leur faire comprendre que s'ils sont en bande, s'ils font des remarques, ça peut être inquiétant pour les filles. Pas forcément, mais ça peut être inquiétant pour beaucoup de filles. Donc peut-être il faut aussi leur apprendre que ça ne se fait pas. Et qu'il y a un certain nombre de règles qu'on doit... Il y a des codes. Moi, je crois que c'est vraiment... dans nos sociétés, il y a des codes. Et il y a des codes qu'on ne peut pas transgresser comme ça sans rendre une partie de la population beaucoup plus inquiète.
Dans toutes les sociétés.
Oui, donc,
je veux dire juste une petite chose aussi. Je pense aussi qu'on ne peut pas comparer la Suède, la Suisse, la France, Marseille ou Paris sans avoir des chiffres. Et là, je suis d'accord avec mon collègue. Donc peut-être une bonne enquête en ligne sur Neuchâtel pour savoir s'il y a du harcèlement de rue. Ça ferait peut-être apparaître des choses ou pas. Peut-être un gender budgeting sur les budgets publics. Parce qu'on ne peut pas aussi non plus se satisfaire d'une impression, finalement. Hein. Et puis, tant mieux si les résultats sont bons, excellents. Du coup, ça peut être aussi un argument politique en disant Neuchâtel, la ville la plus sûre pour les femmes de Suisse ou d'Europe, d'ailleurs. Hein, je veux dire. Et ça peut être un argument politique. Mais c'est important de faire des mesures. Hein. Et donc là aussi, avec le maire de Bordeaux, que vous connaissez, M. Juppé, au début, il n'a pas aimé mes travaux parce qu'il croyait que je disais du mal de Bordeaux. Parce que je disais Bordeaux, ça craint, les filles sont harcelées le soir, le vélo, c'est pas bien. Alors que lui, il pensait que sa ville était magnifique. Et il a raison, d'ailleurs. Hein, je veux dire, elle est très, très belle, très tranquille, etc. Et qu'en fait, en soulevant les lièvres, eh ben, on fait apparaître aussi le vilain côté des choses. De même que mon président d'université ne voulait absolument pas qu'on mette une cellule de veille contre le harcèlement sexuel à l'université en disant mais non, ça va faire fuir les étudiantes étrangères. Rien que le fait de dire qu'il y a du harcèlement sexuel à l'université, vous voyez. Donc c'est aussi cette peur, hein, ce tabou, et puis aussi cette bonne conscience de dire c'est les autres. Ben, moi, je pense que le meilleur moyen, c'est de mettre des outils de mesure sur la présence des femmes et des hommes dans la rue, sur le harcèlement. Ça peut se faire par des enquêtes en ligne, ça peut se faire sur des différents possibles, ça peut se faire par des marches exploratoires, par des processus participatifs. Et effectivement, ça peut faire ressortir des choses inversées dans le débat public, alors qu'on peut avoir des élus ou des techniciens de la ville qui ont l'impression que tout va bien. Quand on a fait ce travail sur le harcèlement dans les transports bordelais, l'étudiante avait rendu ce travail face aux responsables des transports qui avaient haussé les épaules en disant « Mais nous, Veolia, on a fait une enquête, on a eu 9000 réponses, jamais personne ne nous a parlé de ça. Vous avez orienté les réponses dans votre questionnaire. » Hein. Et donc ça, c'était 2 ans avant que la grande enquête nationale ait lieu, où on disait qu'il y avait un problème. Donc on voit comment, finalement, à refouler les problèmes, à les invisibiliser, eh bien, on ne peut pas les traiter. Donc il faut soulever les lièvres. Et pour ça, il y a besoin d'enquête, de travail, de comptage. Hein. Et puis tant mieux si tout va bien après.
Ok, je crois qu'on va, clore ici la partie un peu officielle, on va dire, même si la discussion peut se poursuivre en bilatéral, si vous souhaitez continuer le débat avec nos intervenants. Juste vous signaler l'émission qui a été évoquée par M. Rebaud, qui était donc « Faut pas croire » de la semaine dernière, avec la présence de Léonore Porchet, qui était la fameuse élue vaudoise qui a pris position dans ce débat. Je passe la parole à M. Schlebny pour conclure, ou je m'en occupe ?
Occupez-vous-en.
Comme vous voulez.
Et je compléterai après.
Ok, très bien. Donc, ben, je remercie beaucoup nos trois intervenants et de la richesse des échanges qui ont pu avoir lieu tout avec nous. Je vous rappelle donc la publication, entre autres, parce que celui-là, c'est un livre très grand public qui est accessible à tout le monde. Il y a des études plus scientifiques que vous pouvez lire aussi. Donc, le dernier né de Yves Rebaud, qui est ce livre qui s'appelle La ville faite par et pour les hommes, aux éditions Belin, qui vient de sortir et qui est en librairie. Et puis, vous signalez aussi que la prochaine date de Café scientifique est fixée au 23 mars, dans un mois, où on parlera d'un sujet très très différent, puisqu'il sera question d'horlogerie, avec un titre qui dit « Au poignet et dans l'espace ». Voilà. Et maintenant, je passe la parole à M. Schlebny.
Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon de vous donner rendez-vous, effectivement, au prochain Café scientifique. Sur les tables, vous avez une publication de l'Université de Neuchâtel. C'est le dernier né de nos numéros d'UniNews. Ce n'est pas un rapport direct avec les cafés scientifiques, mais vous pouvez découvrir le monde des amibes, voilà, si ça vous intéresse. Vous prenez un exemplaire. C'est parce que voilà, notre université organise à Seignelay-Légier un colloque international sur ce sujet dans quelques jours. Voilà, donc bonne lecture. Avec les amibes. Et puis rendez-vous pour le café sur l'avenir de l'horlogerie dans notre région le 23 mars. D'ici là, eh bien, je vous souhaite tout de bon. Merci de votre fidélité. À bientôt.